Voilà, c'est parti. C'est parti. Donc, bienvenue à vous pour cette Radio Pléiade numéro 13. Voilà, numéro 13. Et puis un impromptu finalement parce que on n'avait pas forcément prévu d'en faire un. Et puis comme on a eu une mise à jour de situation planétaire du contact Ecobra, la semaine dernière, cette semaine, non, la semaine dernière maintenant, le temps passe vite. Et ben, on s'est dit que ce serait peut-être bien d'en faire une. Donc, comme on était disponible, voilà. On l'a fait. Donc, habituellement, on fait un live sur les mises à jour de situation planétaire. Donc là, on choisit une forme un peu plus simplifiée parce que c'est l'été et puis qu'on n'avait pas trop le temps. Voilà. Mais vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez et puis on va balayer justement cette mise à jour et puis vous donner nos commentaires. Alors moi, je vous donne ma petite humeur du jour pour démarrer et puis j'inviterai les autres co-animateurs à faire de même. En fait, quand j'étais petit, on m'a appris le mot le plus long de la langue française. Et jamais, j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à le prononcer au début. Vous savez, antitutionnel, enfin bref. Et je me serais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais l'utiliser à bon escient, y voir une utilité à ce mot-là. Et donc, force est de constater que depuis la validation par le Conseil constitutionnel de la loi d'extension du pass sanitaire, force est de constater qu'on peut utiliser à bon escient le plus long mot de la langue française. Donc, la loi d'extension du pass sanitaire a été validée anticonstitutionnellement. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur?
Non, carrément pas.
Voilà, c'était mon humeur du jour. Allez, à vous.
Allez, non. Ah non, vas-y, Gwen,
vas-y. Non, non, c'était comme je voyais que personne n'y allait. Gwen de la Chambre Attaquion et de la Sororité de Bretagne, bonsoir à tous. Moi, tout simplement, heureuse d'être là parmi vous pour discuter de tout ça.
Ok, moi je vais être un petit peu plus long, sauf si Gwen veut rajouter quelque chose.
Non, non, vas-y, je t'en prie.
Ok, donc eh ben moi je voulais faire un spécial merci aux entités qui ont réactivé certains vortex dans certains endroits, parce qu'on en parle mais on ne les remercie pas. Je voulais aussi attirer l'attention, c'est qu'actuellement, je vois sur tous les groupes beaucoup de choses qui sont postées, qui sont pas rigolotes et qui jouent le jeu de l'ombre, à savoir beaucoup de noirceur, d'inquiétude, de peur qui sont reliées à travers les articles. L'ombre s'infiltre partout. Voilà, ça c'était un petit point. Et je vais proposer aux gens qui veulent se soigner un système qui s'appelle l'ozoneur. Je vais juste faire un petit post sur le groupe Révolution Vibratoire. J'ai aucun intérêt dans l'histoire, c'est juste pour vous donner des bons trucs, pour vous proposer des bons trucs comme on le fait entre copains. Donc, si vous voulez creuser, creusez. Mais c'est des systèmes qui permettent de rester en bonne santé et de soigner le Covid chez soi. Voilà, après, je décline toute responsabilité vis-à-vis des médecins, patati patata. Voilà, et puis soyez heureux, soyez joyeux, sans emmerde de l'ombre. Réunissez-vous, rigolez, chantez, dansez. Et puis, une très bonne émission à tous et à toutes.
Et merci beaucoup. Et tu nous fais notre enregistrement de sécurité aussi, au passage?
Oui, c'est lancé depuis tout à l'heure, sans problème.
C'est super. Merci beaucoup. My pleasure.
Bonsoir. Donc, moi, c'est Cindy. Je représente le réseau Prepare for Change. Donc, préparez-vous au changement au niveau francophone. Donc, je m'occupe du site internet fr.prepareforchange.net. Je m'occupe aussi du site français des méditations French Wheel of Mass Meditation. Je gère des groupes Facebook et Telegram. Et je suis liée à la civilisation ancienne d'Hyperborée. Et durant nos radios Pléiades, je m'occupe principalement du chat pour transférer les questions aux intervenants, voir vos commentaires, répondre à vos questions, transférer vos questions et donner des liens internet complémentaires. Voilà.
Merci Cindy. Marion?
Bonsoir. Donc, je m'occupe du site La Voix de la Rose et donc j'anime une sororité à Versailles. Mon humeur du jour, je veux dire, on est au lendemain du portail du Lion. Donc, c'était magnifique hier, les énergies avec la méditation. Je remercie tout le monde d'ailleurs. J'ai ressenti vraiment le cœur de Gaïa pulser. Donc, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Bon, attendons de voir ce que dit notre ami Cobra, mais voilà, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui ont participé à Ancrer la Lumière, parce que c'était hyper important, c'était un rendez-vous important. Donc voilà, voilà mon humeur du jour.
Merci Marion. Jonathan ?
Bonsoir, bonsoir. Moi, je m'occupe principalement du site Exoportail. Donc... Oula, il y a un... Eric, ton micro. Et je disais que bah, je suis ravi d'être parmi vous. On va essayer d'étayer un petit peu et de commenter tout ça. Dans des énergies assez fortes en ce moment du portail du Lion. Donc, je ne sais pas si certains voudraient plus tard s'exprimer sur ça. Ça sera peut-être un peu en after. C'est ça ? Tu fais un after après
Il y aura peut-être un after, mais on peut même en parler pendant la séquence enregistrée. Hein. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens aussi. Hein.
Ouais, très clairement. Et voir un petit peu ce que chacun ressent, comment il le vit et tout, parce que je trouve ça assez fort. Et voilà, donc je suis ravi d'être parmi vous et puis de partager un peu ça.
Bah super, merci. Sandrine ?
Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je m'occupe du canal Méditons Ensemble pour la Libération, afin de soutenir l'agrès énergétique avec des méditations ciblées pour envoyer beaucoup d'amour et puis de guérison aussi. Donc, merci à Marion aussi qui nous partage des informations très, très importantes. Et merci à la sororité de la Rose de Hongrie aussi qui participe avec nous aux colonnes bouddhiques, à la pose des colonnes bouddhiques. Et merci à tous les co-animateurs pour tout le travail effectué jusqu'à maintenant. Et merci à tous les méditants. Ils ont fait un énorme travail et je leur fais un gros, gros bisou. Merci à tous.
Ouais, c'est super. Vous faites vraiment un travail génial. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe Telegram Méditons Ensemble pour la Libération Planétaire. C'est un groupe public, donc n'importe qui peut y rentrer. Et Sandrine et Florence, notamment, organisent très régulièrement, tous les jours, en fait, des méditations ciblées sous la forme de colonnes bouddhiques ou autres. Sur des objectifs particuliers. Et voilà, et c'est vraiment, ça contribue énormément justement au travail énergétique qui est attendu de notre part pour faire face à cette situation inédite, qui est la fin des temps. Alors, on va, j'ai oublié personne, j'espère que j'ai oublié personne, sinon je vais me faire écharper. Enfin, en tout cas, non, je crois, hein. Donc on démarre. Donc nous sommes 80 personnes, donc bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous ce soir. Donc on est le lundi 9 août, donc en plein cœur de l'été, même si le temps n'est pas terrible. Et puis le premier jour donc de l'application de cette fameuse loi d'extension du pass sanitaire qui est en train de transformer le monde, mais peut-être pas de la façon dont on le croit. Alors. Donc, on est là pour parler de mise à jour de situation planétaire, mais on pourra faire tous les apartés qui seront les bienvenus. Si vous avez des questions, donc pensez à lever la main ou activer votre micro. N'hésitez pas à intervenir, ne soyez pas timide. J'ai remarqué qu'en général, les auditeurs sont un peu timides. Donc, voilà, on vous invite à faire fi de votre timidité et à prendre la parole pour un témoignage ou pour une question. Donc en fait, cette mise à jour de situation planétaire, je crois qu'alors elle date du 4 ou du 5 août. Elle date du 4 août, je crois. Et donc elle s'appelle David et Goliath. Alors en l'occurrence, dans cette mise à jour, le contact Ecobral ne parle absolument pas de David ni de Goliath, mais je pense qu'on aura tous compris de quoi il est question. Donc nous, c'est Goliath et eux, c'est David. Ah non, pardon, je me suis trompé. Eux, c'est Goliath et nous, c'est David. Donc nous, le pot de terre contre le pot de fer. C'est-à-dire le petit bonhomme face à ce géant monstrueux et terriblement fort. Et même cette comparaison, je pense, entre David et Goliath, je pense qu'elle est en dessous de la réalité. Parce que quand on se rend compte que la Kabbale, à l'heure où je vous parle, a encore tous les pouvoirs politiques, économiques, médiatiques, etc., on peut se demander effectivement ce qu'on est en mesure de faire pour renverser la situation. Et pourtant, c'est bien ce qui va se passer. Le petit David va bien terrasser le grand Goliath. Donc voilà. Et alors, cette mise à jour de situation planétaire commence par nous entrons maintenant dans la partie cruciale de l'année, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Entre le 15 août et le 18 octobre, Eris et Pluton seront dans un carré presque exact. Donc, il s'agit de l'aspect astrologique le plus puissant de l'année et il signifie une bataille entre deux lignes de temps, la ligne de temps positive de l'ascension et la ligne de temps négative de la réinitialisation du coronavirus. Alors oui, donc on n'y est pas encore le 15 août, nous ne sommes que le 9, mais en tout cas on sort juste du portail du lion, et je pense que le portail du lion était un très bon, justement, une très bonne introduction avant ce carré Eris-Pluton. Alors est-ce que, allez-y, je vous laisse la parole, les co-animateurs, est-ce que... On peut parler du portail du lion, parce que justement, c'est le préambule à cette partie cruciale de l'année dont fait mention Cobra.
Ouais, surtout qu'il y a pas mal de lions dans les animateurs ce soir, c'est peut-être un hasard.
Oui, il y a beaucoup de lions, attention, les lions se réveillent, sachez-le.
Lion aussi, j'aimerais qu'on ne les oublie pas, s'il vous plaît.
Pardon Marion, je n'ai pas entendu ce que tu as dit.
J'ai dit et les lionnes aussi, parce qu'il y a une symbolique, on en reparlera après, mais chez les Égyptiens, par exemple, la déesse Sekhmet qui est invoquée souvent pendant le portail du lion. Donc, pas oublier les lionnes.
Ah ben non, mais on ne vous oublie pas. Hein. Et d'ailleurs, vas-y, parle-nous de ce fameux portail du lion. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Et donc, on a tous fait une méditation, on a fait une méditation mondiale. Donc le 8, donc c'était hier, à 16h heure de Paris, pour justement profiter de ces énergies spéciales pour l'activation du réseau des pierres Sintamani. Tu peux nous en parler un petit peu?
Alors le portail du lion, oui, donc ça a lieu tous les ans, hein, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais disons que cette année ça prend une tournure particulière parce qu'on est en 2021, qu'il y a beaucoup de prophéties qui parlent du tournant de l'année 2021. Cobra nous confirme qu'on est dans une échéance particulière au mois d'août cette année. En fait, le portail du lion, il démarre concrètement le 26 juillet. Juste après, en fait, le jour qu'on appelle le jour hors du temps ou le jour de Babaji, donc qui est un grand enseignant, un maître du Kriya Yoga. Et donc on sent qu'il y a eu des enchaînements, en fait, avec la conjonction, pardon, de Vénus en Mars, c'était le 13 juillet en Lion. C'était très fort. Donc déjà, une énergie de Kundalini qui est arrivée à ce moment-là. Et je faisais partie des gens qui avaient un peu pressenti qu'il y aurait une activation des prêtresses. Et donc, ça n'a pas loupé. Elles ont fait une activation le 24, comme l'a confirmé Cobra, dans les catacombes. Donc, c'est des prêtresses du mouvement de la résistance, donc dans le réseau souterrain. Et donc, suite à ça, donc le 24 juillet, on note que c'est juste avant, du coup, le portail du lion. Elles ont fait ça juste avant. Donc, c'est pas anodin, j'imagine. Et donc, on y est entré. Et le point culminant étant le 8-8, avec toute la symbolique du nombre qui se répète du 8. Donc, le 8, c'est l'univers, l'infini, l'unité. Et le lion, donc, qui est le symbole de la souveraineté, de la noblesse, des valeurs, de l'affirmation. C'est aussi l'énergie sexuelle masculine. Enfin, c'est le masculin et c'est l'énergie solaire, rattachée au masculin soleil, père. Et c'est aussi donc l'énergie kundalinique sexuelle. Donc voilà, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboliques qui d'ailleurs, le lion, comme on sait, est utilisé notamment en France, hein, dans les symboles royaux. C'est pas pour rien, c'est pour faire référence spirituelle à ce lion, qui était aussi donc important dans l'Égypte. Et donc le 8-8, il y avait un alignement particulier avec Sirius, donc qui est une constellation importante, une étoile. Donc on sait qu'il y a une civilisation qui s'appelle les Syriens. Et donc pour les sororités de la rose, ça a une signification aussi, puisque c'est en référence à la déesse, à la déesse qui vient de Sirius et qui a apporté les pierres Shintamani sur Terre pendant l'Atlantide. Et donc des prêtresses, elle a initié des prêtresses et donc ensuite s'est perduré à travers les siècles, se sont perdurées les sororités de la rose. Donc voilà, il y a une connexion particulière avec ça pendant le portail du lion. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le portail du lion?
Nous sommes 88 participants, c'est le portail du lion ça aussi, 8-8.
Ah bah magnifique, très, très belle synchronicité. Et donc, ce que nous invite aussi ce portail qui a lieu chaque année, c'est un nouveau cycle solaire C'est un moment de transformation. Le feu, c'est ce qui, dans l'alchimie, c'est ce qui transmute, c'est ce qui transforme. Donc, c'est une invitation à quitter tout ce qui ne nous sert plus, qui ne sert plus notre lumière, en fait. Donc, c'est aussi une opportunité pour nous de conscientiser l'année solaire écoulée et passer un cap, en fait, poser des intentions. Et donc, c'est aussi une période d'abondance, puisque le soleil, c'est aussi la vie. Donc, on peut aussi poser des intentions sur l'abondance. Comment manifester ce qu'on souhaite, tous nos projets, tous nos rêves. Voilà, c'est un bon moment pour amplifier toutes nos intentions. Et puis, c'est aussi un moment de recentrage dans le cœur. Voilà. Donc voilà tout ce que peut permettre ce portail du lion. Je sais que cette année, beaucoup de gens ressentent des choses très fortes. Il y a quand même un éveil qui est assez important cette année avec tout ce qui s'est passé l'année dernière. Et donc, je pense qu'effectivement, ce portail va amener aussi sur le plan de la conscience collective une transformation, puisqu'on a vu les manifestations qui ont démarré donc à peu près le 24. Donc, on voit que ce qui est réclamé, c'est la liberté. C'est la liberté. Et donc, ce portail du lion, il nous invite à manifester la souveraineté. Du coup, c'est bien ça de quoi ça parle. Le lion, c'est la souveraineté, l'affirmation de soi. Et donc, c'est ça notre défi, là, tous ensemble, c'est de maintenant manifester dans l'unité notre souveraineté, notre liberté. Et c'est ça qui va permettre, en fait, comme l'a dit Cobra, de poser une intention collective qui va participer à manifester le plan de l'ascension. Donc, il ne faut pas sous-estimer les manifestations, parce que je vois beaucoup de gens dire « ouais, ça ne sert à rien, c'est de la perte d'énergie ». Ben ça, c'est des gens, évidemment, qui n'ont pas une grille de lecture spirituelle et énergétique des choses et qui ne comprennent pas que dans ces moments où on est tous ensemble et qu'on pose des intentions avec nos pancartes, avec notre connexion au cœur, avec tout ce qu'on a de meilleur à donner dans ces moments-là, et pas dans la violence, j'insiste, ben dans ces moments-là, on manifeste une intention collective, on envoie un message à la source et aux êtres de lumière, en fait. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer ces manifestations qui sont en train de se dérouler. Donc, moi, j'invite tous ceux qui se sentent guidés, toutes celles et ceux qui se sentent guidés, à venir en manifestation, alors en paix, en joie, et venir mettre leurs intentions, leur énergie positive dans ces moments-là. Voilà.
Bah super, merci beaucoup. Jonathan, tu voulais dire quelques mots par rapport à ce portail du lion ? Tu as des choses, je pense, intéressantes à partager en termes de ressenti ?
Pas spécialement, c'est après. Par contre, je m'entends en écho. Ouais, c'est bon. Pas spécialement, non, c'était plus un appel pour que les gens puissent s'exprimer parce que c'était encore actuel. Et je crois qu'il se termine C'est le 10 ou le 11, Marion, c'est quand ?
12, ça se termine.
C'est le 12, pardon. Donc c'est le 12, voilà, à titre personnel. Plutôt une épuration sur certains aspects de ma personnalité, sur un réalignement sur ce qui est le plus important pour moi, une reprise d'une certaine hygiène spirituelle et d'introspection. Voilà, il y a aussi du travail, ça c'est un peu qu'expliquait Marion dans l'énergie en ce moment, et puis ça doit être boosté avec l'activation de la Kundalini, donc plutôt liée à l'énergie sexuelle. Mais voilà, essentiellement, après, c'est à chacun en fonction de ses ressentis, en fonction de son évolution aussi. Quoi. Donc voilà, mais à titre personnel, ouais, ça me travaille assez.
Ouais, je pense que tu n'es pas le seul. je peux confirmer que dans mon cas, ça travaille beaucoup également. Ouais, tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait dire quelques mots par rapport à ça ou éventuellement poser une question ? Donc en fait, Marion a anticipé un petit peu justement en parlant de l'activation par les prêtresses qui a été faite donc le 24 juillet, dont il est question un petit peu plus loin dans la mise à jour de situation planétaire. Donc pour rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant le démarrage du mouvement des Gilets jaunes, je crois que c'était en novembre 2017, ou je ne sais pas si je me trompe d'une année, 2018, je ne sais plus. 2018. Il y avait eu également une activation qui avait été faite par les prêtresses du mouvement de la résistance, en fait, sous la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ça avait justement, ça avait démarré d'une certaine façon, initié le grand mouvement des Gilets jaunes. Donc, on peut faire, c'est un parallèle intéressant qu'on peut faire entre cette activation du 24 juillet et ces manifestations contre le pass sanitaire et celles qui ont démarré avec le mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'on a quelque chose de tout à fait comparable.
que cette fois-ci, ça a marché. Et ça n'a pas été contré par les forces involutives, contrairement à 2018.
Bon, après, c'est vrai qu'on est, tout au début des manifestations, mais ça montre en tout cas qu'il y a un réel élan, en tout cas au niveau de la lumière, du soutien de ces manifestations, et que ça montre que l'action physique qu'on peut avoir sur le 3D, en fait, avec les manifestations, sont tout à fait en lien, en fait, avec la libération énergétique qui va bientôt arriver. De toute façon, on voit bien que les liens entre le physique et l'énergétique sont toujours présents. Et donc, du coup, ça rallie vraiment le fait que d'aller dans la rue comme il faut aussi une corrélation souvent avec la Révolution française, qui malheureusement a été également détournée. Mais on voit vraiment que le mouvement, il viendra aussi d'une certaine façon de la rue. Il ne faut surtout pas en avoir peur et au contraire, y participer, comme disait Marion. Et c'est vrai que pour ce travail-là au niveau énergétique que fait Sandrine et Florence pour la protection des manifestations, c'est hyper important. Donc on commence à arriver à lier un peu toutes les façons de voir, de penser au niveau de chacun, qu'on soit dans la rue ou en protection sur les manifestations énergétiques et tout ça. Donc c'est super intéressant. Hein.
Oui, alors justement, par rapport à ce groupe de soutien énergétique en back-office, là, Sandrine, tu pourrais nous en dire quelques mots? C'est intéressant, je pense que ça peut intéresser les personnes qui sont là, qui nous écoutent aujourd'hui, si elles veulent participer justement, qui n'ont pas envie de manifester, d'aller dans la rue, mais qui peuvent malgré tout participer au soutien énergétique.
Oui, tout à fait. Avec Florence, on organise régulièrement des colonnes bouddhiques. Alors, pour la semaine qui arrive, ça va être surtout axé sur les fleurs de vie et méditation, libération des otages, ainsi que activation, les méditations de la déesse, retour de la déesse. Mais en fait, on choisit avec les méditants, Florence, et puis on fait des choix assez stratégiques, en fait, pour pouvoir soutenir, c'est plutôt du nettoyage que l'on fait, nous, avec les colonnes bouddhiques, une transmutation des énergies négatives et entités négatives, pour laisser passer en fait plus de lumière et que le féminin sacré puisse s'exprimer en fait un peu plus aisément. Voilà, donc c'est quand même un travail qu'on a fait pendant un peu plus de 15 jours, presque 3 semaines. Et je pense que ça a quand même fait son effet et c'est vraiment très très utile quoi. Donc ça aide à la guérison, ça aide au soutien énergétique de la libération. Et ça nous fait du bien aussi à nous, beaucoup aussi en même temps. Donc, on en redemande limite, voilà. Donc, merci à tous les participants et puis bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés actuellement et qui vont encore continuer d'arriver, je pense. Donc, merci à tous.
Oui, et puis qui veut aller loin ménage sa monture, donc effectivement, ménagez-vous un petit peu parce que quand je vois que des fois, vous faites 4-5 méditations par jour, enfin, j'ai l'impression, je sais pas comment vous faites, mais il va falloir tenir un petit peu sur le long terme parce que c'est un peu une course d'endurance là face à laquelle on est vis-à-vis des forces sombres, donc il faut tenir. J'espère que vous allez réussir à tenir le rythme.
Oui, on va réussir à tenir. De toute façon, ben là, j'étais en train de discuter avec Florence tout à l'heure, elle me dit je m'ennuie un peu sans les colonnes bouddhiques. Je lui dis oui, c'est sûr, il me tarde de revenir dessus. Mais là, il faut vraiment, on va dire, stabiliser en fait toutes les énergies et les colonnes bouddhiques que l'on a posées avec le maintien de l'énergie féminine divine et ensuite vraiment tout lisser, que tout se déroule correctement avec les fleurs de vie, libération des otages et retour de la déesse, essentiellement cette semaine.
Et vous nous faites une petite méditation de soutien tous les samedis au moment du démarrage des manifs, non, c'est ça?
Et toute la journée, nous faisons méditations, je vais y arriver, des méditations de soutien pour les manifestants dans toute la France. Fleurs de vie, libération des otages, intention que tout se passe bien. Et on continue comme ça jusqu'au soir, pour vraiment qu'il n'y ait pas de dérapage, trop de violence, et soutenir dans la joie et la bonne humeur tous les manifestants. Et surtout, surtout, éviter les dérapages de violence, en fait.
Parce qu'on sait bien que c'est ce qu'ils veulent effectivement pour pouvoir pervertir le mouvement. Pour l'instant, il est assez pur, ils n'ont pas encore réussi à le pervertir. Peut-être qu'ils essaieront à partir de la rentrée, Mais ouais, c'est super important tout ça. Donc voilà, donc si vous voulez participer à ce soutien énergétique des manifestations et puis le nettoyage global, donc rejoignez le groupe Telegram Méditons Ensemble pour la libération planétaire. Voilà, c'est la petite page de publicité et vraiment un grand merci à Sandrine et au groupe pour tout le travail qui est fait. Moi, je participe de temps en temps, mais comme il y en a tous les jours, c'est très mobilisant, mais c'est vraiment important. Donc voilà. Alors, pour continuer justement là sur la mise à jour de situation planétaire, donc il est dit que cette période pourrait sembler très effrayante, car les forces obscures feront tout ce qui est en leur pouvoir pour poursuivre leur plan à long terme visant à imposer des passeports vaccinaux et peut-être même des vaccinations forcées. Alors, moi j'ai démarré justement l'introduction là avec... justement cette loi d'extension du pass sanitaire, mais je pense qu'il serait naïf effectivement de s'imaginer qu'ils vont s'arrêter là. Leur objectif, bien évidemment, est de pousser le pass sanitaire et de pousser les vaccinations forcées, et ils vont pas s'arrêter au personnel de santé, vous vous en doutez bien. Ils vont la vaccination obligatoire, même si, enfin, pour l'instant, on est dans une vaccination fortement incité à travers la propagande des médias, mais aussi la propagande scolaire qui va démarrer dès la rentrée scolaire. Est-ce que ceci suffira à atteindre leurs objectifs? Probablement que non, et probablement que justement ils vont en venir à une obligation vaccinale légale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 39 traîtres de l'Assemblée nationale qui ont déjà fait qui travaillent justement sur un projet d'obligation vaccinale pour l'ensemble de la population. Donc on veut les noms, on veut absolument les noms, parce que ça nous servira justement plus tard pour les procès de Nuremberg qui auront lieu. Donc c'est important de savoir effectivement quels sont ces députés qui prennent position ouvertement pour la vaccination obligatoire en dépit de tout bon sens scientifique, puisque voilà, quand on est bien informé, on sait que cette vaccination n'est absolument pas obligatoire, mais qu'à l'inverse, elle sert le plan de l'ombre. Donc voilà, donc il faut, et c'est pour ça que la dernière fois, dans le dernier Radioplayade qu'on a fait ensemble, justement, j'invitais chacun d'entre nous à augmenter sa contribution à la lumière, parce qu'on voit que l'ombre accélère, et donc moi j'invite aussi la lumière que vous représentez à accélérer pour éviter de se retrouver dans ces situations anxiogènes, justement, où on va se voir imposer un passeport vaccinal pour tout, pour toute situation de la vie quotidienne, ou une obligation vaccinale pour toute la population. Donc c'est pour ça que c'est très important, nous, qu'on fasse notre travail. C'est cette confrontation des deux lignes de temps positives et négatives dont nous parlions tout à l'heure.
Ouais, complètement. Et puis en plus, il faut savoir qu'ils ont autorisé les ados de 16 ans à pouvoir se vacciner sans autorisation parentale, en fait. Donc on sent bien la campagne de vaccination qu'ils vont faire au sein des lycées et autres. Et c'est vrai que par rapport à ça, manifester dans la rue et tout, c'est une action, mais je pense que tous ceux qui sont parents d'enfants de lycéens et tout ça, moi je les inviterais aussi à prendre rendez-vous gentiment avec la direction du lycée pour bien imposer, enfin bien prévenir en tout cas que on n'autorise pas ça du tout sur notre enfant, et que de l'ESS, je pense que c'est une protection qu'on peut vraiment leur faire en se positionnant en tout cas face au lycée, quoi.
Alors, je vous cacherai pas que j'ai contacté même un juriste par rapport à cette question, justement, parce que donc il y a effectivement ce problème de la pseudo-majorité qui maintenant serait à 16 ans, en tout cas pour cette question, de façon très étrange, alors qu'elle est de 18 ans normalement. Et puis il y a un autre aspect aussi, peut-être qui a moins attiré votre attention, c'est le fait que l'autorité parentale maintenant peut s'exercer que d'un seul parent pour justement cette vaccination. Donc un seul parent peut décider unilatéralement de vacciner un enfant de moins de 16 ans sans le consentement de l'autre parent. Donc ça, évidemment, c'est une bombe c'est une bombe qui va créer énormément de zizanie, en tout cas dans les familles justement de parents séparés ou dans les familles même non séparées, mais qui n'ont pas le même point de vue sur la vaccination. Donc c'est une véritable bombe et c'est en plus en dépit des principes du code civil de base de l'autorité parentale. Et alors ce juriste que j'ai consulté donc me dit qu'effectivement en ce moment tout se passe, je dirais que le gouvernement piétine la science et le gouvernement piétine le droit. Et quand c'est un homme de droit qui vous dit ça, je pense que il y a même pas besoin d'être un juriste pour le comprendre, mais en tout cas quand un homme de droit vous le dit, ça prend d'autant plus de poids. Donc aujourd'hui tout est fait en dépit de la science et en dépit de la loi et de la constitution. Il faut bien le savoir. Alors il y a Sony qui a levé la main. Tu peux activer ton micro si tu veux intervenir. Excuse-moi, j'ai mis un peu de temps à te donner la parole.
Bonjour à tous. Bonsoir. Excusez-moi, bonsoir. Ouais. C'est la première fois que je rejoins en fait un chat vocal. Donc j'ai juste voulu faire une expérience et je me suis trompé. Je ne voulais pas prendre la parole. Je suis désolé. Donc voilà, petite expérience. En tout cas, ça fait très plaisir de voir tout le monde. Et courage à tous. Voilà, tout simplement. Bonsoir à tous. Au revoir.
Merci Sony, ouais, il n'y a pas de problème, très bien, mais en tout cas tu es le bienvenu et voilà. Merci. Et n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, poser des questions, on est là pour ça, c'est ça l'intérêt justement du salon vocal, à contrario du live sur YouTube, c'est qu'ici justement vous pouvez intervenir de vive voix, donc c'est quand même une autre forme de communication qui est quand même une autre forme qui est assez intéressante. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir justement sur cette question de poursuivre leur plan pour imposer les passeports vaccinaux et les vaccinations forcées ? Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait, l'un des co-intervenants souhaiterait intervenir pour compléter ?
Oui, moi j'aimerais prendre la parole.
Bien sûr. On t'écoute, on t'attend.
Ce problème de vaccination, c'est franchement un gros problème parce que je m'aperçois que ici, même dans mon couple, j'ai mon épouse qui finit par me dire on va devoir se faire vacciner alors que je ne suis absolument pas d'accord. Et c'est vrai que ça crée des tensions, ça commence à créer des problèmes je ne sais pas ce que ça va donner, quoi, en fin de compte. Donc, c'est franchement un problème, comme tu le disais, dans les couples, les couples monoparentaux, dans les femmes seules qui ont des enfants, etc. Ça va créer de très, très gros problèmes.
Oui, tout à fait. C'est une bombe, effectivement. C'est une bombe. Et après, derrière, il va y avoir aussi des actions juridiques qui vont être menées, bien évidemment. On ne sait pas comment la jurisprudence va être appliquée par rapport à cette loi. Je pense qu'il va falloir être attentif à tout ça dans les semaines qui viennent. Donc l'application du passeport sanitaire va poser énormément de problèmes. Moi, je parlais du cas particulier, effectivement, de la vaccination des enfants, mais il y a plein d'autres, évidemment, plein d'autres aspects qui vont poser tout un tas de problèmes. Et je vous parle pas de l'inquiétude des restaurateurs qui voient que finalement ils ont beaucoup moins de réservations cette semaine. Ça va être vraiment très très compliqué. Moi, j'ai déjeuné chez un restaurateur la semaine dernière en me disant que c'était vraisemblablement mon dernier restaurant. Et je lui ai demandé au restaurateur, est-ce que vous allez appliquer le passeport sanitaire? Personne ne m'a dit, le problème, c'est que moi, j'ai mon loyer à payer. Je peux pas fermer. J'ai des charges, etc. Donc, elle va le faire, mais c'était vraiment à contre-cœur. Je pense qu'il y a tous les cas de figure. Il y a les gens qui vont fermer, il y a les gens qui vont ouvrir et le faire à contre-cœur. Il y a ceux qui vont ouvrir et pardonnez-moi l'expression, dire fuck au système et sont prêts à payer les amendes ou à prendre le risque de se faire contrôler. Mais en tout cas, on est dans une situation inédite. L'homme n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation. Ça, c'était des paroles de Sartre. Je pense qu'on n'a jamais été aussi libre que pendant cette guerre qu'on est en train de vivre, justement, face à cette oligarchie, pour prendre des décisions qui peuvent nous mener loin. Alors, j'ai vu aussi, il y a des artistes qui prennent position, qui disent qu'ils n'interviendront sur une scène pour laquelle, justement, le pass sanitaire sera exigé. Ça, c'est une décision qui est particulièrement difficile à prendre. Ça veut dire que vous êtes sûr de ne quasiment pas travailler. Donc voilà, c'est un acte militant, c'est un acte résistant, mais en même temps, c'est, voilà, on se retrouve face à des situations extrêmement difficiles, telles qu'on a pu connaître justement, je pense, pendant la dernière guerre.
Je peux me permettre pour rebondir sur ce que tu dis, Hervé, c'est important de conscientiser là qu'il faut éviter de faire des projections. En fait, il faut comprendre que c'est nous qui allons déterminer ce qui va se passer, et plus on va mettre le paquet sur le mois d'août, plus on va tenir, on va résister dans toutes nos actions, et plus on va ancrer la lumière, moins il y a de chances qu'ils arrivent à leur fin, à la rentrée. Donc en fait, il ne faut pas se dire oh, « ça y est, ça va arriver, ça va se faire ». Il faut plutôt visualiser qu'on va pouvoir impacter ça, si là, effectivement, on tient le coup. Et oui, c'est une guerre, et donc dans toute guerre, et ben, y a des moments difficiles, et il faut se serrer les coudes, en fait. Il faut qu'on trouve des moyens de s'entraider. Et je vois déjà qu'il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, des groupes qui se créent, d'informations, d'entraide, d'actions collectives, etc. C'est super. Et je sais bien que certaines personnes sont hésitantes, il n'y a aucun jugement, on comprend bien qu'il y a des difficultés derrière financières qui s'engagent, surtout quand on a des enfants sous sa responsabilité, je le comprends très très bien. Mais peut-être que la meilleure chose à faire, en fait, c'est de comprendre que c'est vous qui avez le pouvoir, en fait, et que si on s'unit tous, s'il y a une bonne partie de la population qui s'unit, vaccinée ou pas vaccinée, on s'en fiche, mais si cette population s'unit, ça va vite quand même régresser, leur plan va vite régresser, et comme dit Cobra, en plus à partir de mi-septembre a priori, il va y avoir de toute façon sur le plan physique une reculée des forces sombres, donc courage, faut y croire, on est plus fort qu'eux, en fait, faut bien comprendre qu'on est plus fort qu'eux, c'est l'union, c'est l'unité qui fait la force, et ça c'est, il faut qu'on retrouve en fait cette sensation qu'on a perdue depuis trop longtemps. On est trop programmé à penser individuel, à penser qu'on n'a aucun pouvoir, qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'en un claquement de doigts, en faisant certaines choses de manière efficace, on peut vite, en tout cas déjà sur le plan physique pour commencer, on peut vite retourner les choses. Et il n'y a qu'à voir, il y a eu des manifestations monstres, je crois que c'était en Allemagne, même en Angleterre, ils ont reculé, hein, le gouvernement a reculé, il n'a pas mis de passe sanitaire, donc c'est bien la preuve que ça fonctionne. Alors, ils réessayent, ils retentent, voilà, c'est un peu une bataille, mais en tout cas, ça marche.
Ouais, tout à fait. Donc, c'est David contre Goliath. Hein. C'est bien le thème de cette mise à jour de situation planétaire. Et c'est le temps que, justement, David prenne conscience de sa force face à ce géant et définisse sa stratégie pour lui mettre une pierre entre les deux yeux. C'est ça, non?
Plein d'entre les yeux.
Il y a une partie de leur pouvoir qui est palpable, qui est véridique, mais il y a une partie aussi de leur pouvoir qui est d'illusion, quoi, qui se base sur la communication et la pression médiatique. Mais en fait, ça se base essentiellement, tant que tu appuies sur le bouton off, ça se base sur du vent, quoi. Donc ça, ils mettent énormément d'énergie à penser qu'ils sont omnipotents, omniscients et surtout que c'est immuable, en fait, ce qui arrive. Mais en vérité, c'est pas du tout immuable, hein. Ça peut très facilement, je sais pas, mais ça peut franchement se balayer. Il suffit juste de faire front commun et puis de dire non, quoi, faire de la désobéissance. Hein.
Mais tout à fait. Alors, j'ai des personnes qui souhaitent poser une question ou intervenir. Donc, Lucie. Ouais. Alors, il y a aussi Socha. Je vous donne la possibilité d'activer votre micro. Allez-y par ordre de demande de parole.
Oui. Lucie, bah écoute, pour aller dans le même sens, moi je suis pour le boycott des endroits qui demandent le pass sanitaire. Parce que je vois autour de moi des gens qui font des tests pour pouvoir aller au café. Et moi j'ai dit, moi j'irai pas me faire tester tous les trois jours pour aller au café. Je boycotte parce qu'il faut vraiment que les commerces qui exigent le pass sanitaire voient vraiment qu'il y a un gros manque. De façon à rejoindre en fait les gens qui s'opposent au pass sanitaire, et il faut surtout pas rentrer dans leur jeu et de dire bon bah moi je vais faire des tests tous les trois jours et donc bon bah j'ai quand même un pass sanitaire. Non, pas de pass sanitaire. Donc boycott. Moi je vis dans Paris et je vais chez les petits commerçants et je me débrouille. Et les gens avec qui j'allais au café, ben, on s'est donné rendez-vous sur un banc public où on va boire un coup ensemble pour se retrouver. Parce que terminer le chantage, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc moi j'ai choisi mon camp et de toute façon, Il faudra qu'ils viennent me chercher avec les gendarmes s'ils veulent me vacciner, hein, ça c'est sûr. Voilà ce que je voulais dire.
Merci. Ouais, Socha.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Sandrine, Marion, Lucie, et puis toi-même. Cet après-midi, j'étais en méditation encore, et j'ai eu l'occasion de parler directement à la Terre. J'ai vraiment parlé à la Terre, je ne sais pas, mais en tout cas, les réponses étaient éloquentes, et la réponse était assez surprenant d'ailleurs, que la Terre qui a malgré tout une âme a quand même besoin en fait de nous pour ascensionner aussi. C'est ça qui m'a paru très très bizarre, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, dans le sens où on serait, enfin tout ce qui est humain, est vraiment à mi-chemin entre le spirituel et le matériel, et que ce serait la seule forme vivante, donc l'être humain, qui a cette capacité de faire le lien entre les deux. Gaïa a un échelon plus grand, c'est un peu comme nous, mais enfin, mais comme elle. Mais quand je disais, je me demandais comment ça allait, et en fait, elle m'est apparue déjà comme une adolescente, très jeune, et elle disait que oui, pour ascensionner, elle a quand même besoin de nos espoirs, de notre joie de vivre. Et il faut, comme tu disais, Lucie, il faut résister, mais résister dans, évidemment, dans la positivité extrême, un peu comme dans Monstre et Compagnie, le dessin animé, où on dit que le rire est beaucoup plus fort que le cri. Ben, c'est ça, en fait, on est beaucoup, beaucoup plus fort en tant que Goliath, avec notre lumière, que notre haine, notre colère, nos ressentiments, nos manques. Et même si pendant quelques temps, il va falloir qu'on mange des pommes de terre, tant pis, on passera par là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, d'ailleurs.
Ok, merci, Socha. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à ça?
Par rapport à l'ascension, oui, effectivement. Disons que l'ascension, c'est quand même un processus un peu complexe, parce qu'il va y avoir des vagues. Dans l'humanité, il va y avoir 3 vagues. Et j'invite à relire les posts de Cobra, qui sont une des pépites sur l'ascension. Ils donnent quand même déjà beaucoup de détails, même si le plan est en train d'être revu et qu'on attend impatiemment son prochain post sur la mise à jour du plan de l'ascension. Donc c'est un processus un peu complexe, et alors je ne suis pas moi à titre personne de répondre est-ce que la Terre peut transformer seule dans son propre processus puisque c'est un être conscient, ou est-ce qu'elle a impérativement besoin de nous. J'ai envie de dire que oui, elle a besoin de nous, et en même temps c'est un être indépendant, donc quoi qu'il arrive elle ascensionnera, mais elle a accueilli la vie, elle a accueilli les humains depuis des milliers d'années, et donc c'est vrai que son destin il est quand même lié au nôtre d'une certaine manière. La Terre toute seule, c'est plus, enfin sans vie humaine, c'est vrai que ça a plus trop de sens pour moi, mais c'est une bonne question en fait. Enfin c'est un sujet intéressant, ce que tu as soulevé, Socha, parce que effectivement c'est j'ai pas la réponse à ça personnellement. Mais voilà, je sais que le processus ascensionnel va pas se faire en 30 secondes, ça va se faire par vagues. Il va y avoir une partie, une infime, hein, je précise, mais une partie de la population qui finira son cycle mortel, pour celle qui sera la moins prête à ascensionner, elle finira son cycle sur d'autres planètes qui correspondent à, on va dire, au niveau vibratoire, mais au niveau de conscience plutôt, mais qui, bien sûr, vivront quand même dans un monde de paix, hein, bien évidemment. Mais voilà, il faudra finir le cycle. Donc, c'est quelque chose de complexe, l'ascension, parce que j'entends, je lis beaucoup de choses diverses et variées sur Internet, des canalisations, etc. Attention, parce qu'il y a quand même pas mal de confusion dans ce qu'est l'ascension, et puis des mélanges entre la cinquième dimension, la cinquième densité... Enfin voilà, il y a beaucoup de confusion, et c'est quelque chose d'un petit peu complexe. Ça va demander de la guérison et de l'initiation à certains process. Donc Cobra a un petit peu commencé à parler, mais pour l'instant c'est assez classifié. Donc voilà, donc on, pour l'instant on n'en sait pas assez de toute manière sur, sur notre processus d'ascension. Il nous manque encore des éléments pour bien comprendre comment ça se passe, concrètement comment ça va se passer.
Oui, et puis même sans parler de ça, moi je l'ai déjà exprimé, mais j'ai pas trop envie de parler d'ascension parce qu'on est en train de griller les étapes. Là. Avant l'ascension, il y a un événement important, c'est ce qu'on appelle l'événement. Il y a la percée de la lumière par compression, et l'ascension, ça viendra après. Pour moi, c'est vraiment... on peut se projeter effectivement dans l'après, pourquoi pas. Mais avant ça, il y a la percée par compression, et justement, les humains que nous sommes à la surface de la planète jouent le rôle de trait d'union pour, je sais plus si c'était cette comparaison que tu avais utilisée, Socha, mais pour pouvoir justement stabiliser les énergies lors de la percée par compression. Et la percée par compression de la lumière, donc une grande vague galactique de lumière qui va permettre d'éliminer une bonne partie de l'anomalie restante à la surface de la planète. Je ne sais pas si ça surprimera tout. Peut-être qu'il va y avoir encore un petit peu de travail après pour pouvoir finir de nettoyer tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment l'une des étapes clés avant de parler de l'étape d'ascension qui viendra bien après. Et ça, donc effectivement, oui, les humains jouent un rôle fondamental. On parlait de l'activation du réseau Pierre Sintamani. Chaque être humain peut être considéré à lui seul comme une Pierre Sintamani aussi, qui participe, comme les Pierres Sintamani, à l'équilibrage des énergies lors de cette percée de la lumière par compression.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Hervé, concernant l'ascension. Il ne faut pas dire que c'est après qu'il ne faut pas y penser, puisqu'on a bien d'ailleurs une méditation super importante de la ligne de temps de l'ascension, et qu'en fait, on se prépare à l'ascension quand même d'une certaine manière, avec tout ce qu'on est en train de débarrasser et nos niveaux de conscience qu'on passe. C'est une préparation, parce que c'est comme si tu demandes à quelqu'un qui n'a jamais boxé d'un seul coup, je ne prends pas un exemple très positif, pardon, pas la boxe, mais le cheval. Allez, on va prendre le cheval, l'équitation. C'est comme si tu demandes à quelqu'un qui n'a jamais fait d'équitation d'un seul coup être capable de passer au galop, tu vois, où il y a des étapes avant l'ascension, et donc il faut commencer à réclamer en fait ce processus en soi et dire voilà, j'ai envie de me préparer, en fait j'ai envie de vivre par exemple la guérison sexuelle, j'ai envie d'activer des choses en moi, j'ai envie d'activer mon corps de lumière, j'ai envie de retrouver ma famille d'âme. Et la famille d'âme, par exemple, c'est hyper important, on le sait, notamment quand il va y avoir les villes de lumière juste après l'événement, on va être réunis par famille d'âme, parce que c'est aussi une clé de notre ascension, justement. C'est une étape de notre ascension, c'est d'être réunis en famille d'âme, et puis ensuite avec notre flamme jumelle. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Je pense que, enfin, moi, je me projette déjà dans un état où je me dis, voilà, j'aimerais... j'ai envie d'entrer sur la voie de l'ascension, qui va peut-être être long, hein, j'ai aucune prétention. Mais voilà, je me prépare déjà à ça dans ma conscience, tu vois.
En tout cas, dans ma perspective, pour moi, l'ascension, c'est une formalité administrative qui pourra être faite sans trop de difficultés une fois qu'on aura justement vécu l'événement. Et que pour le véritable obstacle qui est face à nous, pour moi, c'est vraiment ça, c'est the event, c'est l'événement, et non pas l'ascension qui devra être un processus assez naturel. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas.
Bah, c'est vrai qu'une fois que l'événement va être passé, il faut même reprendre le contexte des implants, l'anomalie primaire, toutes ces choses-là ne seront plus présentes, et c'est vrai qu'on récupérera notre potentiel très très rapidement post-événement. Du coup, ouais, je serais assez d'accord dans le sens où on se prépare d'une certaine façon, de toute façon, à l'ascension, puisque c'est quelque chose vers laquelle on va arriver, mais je pense que la véritable préparation va arriver après l'événement, parce que justement, on n'aura plus tous ces barrages, et ça va couler de source, en fait, tout ce nettoyage. Et moi, parce qu'en fait, le fait de parler d'ascension, les gens, en fait, ils vont se penser plus qu'à ça, en fait. Et du coup, ils oublient l'action de maintenant qui va nous permettre d'y arriver, et d'y arriver à quoi, ça sera d'abord l'événement. Et du coup, si on est trop ciblé sur l'ascension, on peut se perdre un peu dans les actions qu'on pourrait mener maintenant pour arriver justement à cet événement qui ensuite découlera naturellement vers l'ascension. Quoi.
Pas trop la vision de la route. c'est même pas du tout notre vision. C'est pas que si les gens ils se concentrent là-dessus, ils vont pas. En fait, ça c'est un apprentissage spirituel, c'est d'être ancré dans la matière, dans le présent, et c'est en même temps projeter le monde futur et commencer à le vibrer. Donc l'un ne va pas à l'encontre de l'autre, si tu veux, dans une démarche spirituelle où tu es bien ancré dans ta mission. Et au contraire, c'est si on a cette méditation de la ligne de temps de l'ascension qu'on nous demande de faire tous les week-ends, c'est parce que là, on est en train d'y passer. En fait, c'est ce croisement de ligne de temps, il est là, il est au mois d'août, notamment. On a eu d'autres moments où on nous a demandé de méditer particulièrement pour cette ligne de temps de l'ascension, mais c'est toujours ce qui est rappelé par Cobra, c'est toujours notre ligne de mire, c'est l'ascension et c'est un processus. Et ce processus, il se prépare. Donc, on ne peut pas dire « Ah ben non, ça sera plus tard. » Et puis, de toute façon, ça ne sera pas pour tout le monde de la même manière et au même moment. Donc, ça doit être une décision intérieure. Enfin, voilà, moi, je parle avec ma pratique spirituelle, ce que je ressens en moi avec certaines méditations et ce qui me vient, moi, en connexion avec mon moi supérieur. Après, on a le droit d'avoir, évidemment, des visions différentes. Mais moi, je dissocie pas du tout le être dans le ici, maintenant, effectivement, là, se concentrer sur manifester l'événement, et la suite qui est l'ascension. C'est tout un processus. L'événement, pour moi, fait partie du processus vers l'ascension. Voilà, c'est une continuité, en fait, l'ascension. Et bien,
c'est exactement ça, ouais. C'est la même chose dont j'essaie d'exprimer. L'événement fait partie de ce processus. Je dis pas du tout qu'il y a aucune attention par rapport à ça. Hein. Non, je suis d'accord avec toi que tout ça est un processus. Mais pour moi, vraiment, l'élément clé sera l'événement dans le sens où après, voilà, vu qu'il n'y aura plus l'anomalie primaire et cette anomalie primaire et les implants, ça sera beaucoup plus facile, en fait, si tu veux, la continuité du nettoyage émotionnel. Pour moi, le gros va arriver post-événement, en fait. Et ça va être un passage qui ne sera pas forcément évident, en fait, juste post-événement. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, tout est un processus. Et les méditations de ligne de temps d'ascension, c'est vraiment ça, en fait, vers lequel ça nous amène. Hein. C'est pas l'inverse que je dis, quoi. Mais je pense aussi que l'événement, c'est quand même une pièce maîtresse, en fait, dans tout ça, quand même, quoi.
Ok, bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. C'est intéressant, justement, de confronter ces points de vue. Chacun a ses points de vue. C'est très bien de les échanger, justement, pour que chacun y prenne ce qu'il a envie d'y prendre. Mais on va pas rentrer dans un débat type scolastique sur ascension, événement, etc. Mais en tout cas, ça peut être une idée, justement, d'organiser un Radio Pléiade spécifique sur le thème de l'ascension. On aurait de la matière. On voit qu'on aurait de la matière. Donc, moi, je vous propose d'avancer, donc, sur le sujet. Donc qui nous occupe aujourd'hui, donc la mise à jour de situation planétaire la plus récente. Cobra fait référence à Martin Armstrong, donc un économiste bien connu qui a développé un programme informatique appelé Socrate qui fait des prédictions basées sur différents cycles. Il est intéressant de noter que ces prédictions correspondent souvent aux informations de Cobra. Donc ce Martin Armstrong désigne la période entre août et décembre comme une période sombre. Ah mon Dieu. Cependant, les forces de la lumière travaillent en coulisses pour contrecarrer cela. Et là, ça nous ramène à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, le 24 juillet, les prêtresses du mouvement de la résistance ont effectué une très puissante activation de la Kundalini dans les catacombes de Paris. Et cela a apporté un soutien énergétique indispensable aux protestations, donc aux manifestations, pardon, qui ont commencé à peu près sur ce jour-là, enfin dans cette période-là, dans de nombreux pays du monde. Donc période sombre entre août et décembre. Alors voilà quelque chose qui pourrait aussi vous faire réagir. Moi, j'aurais plutôt employé le terme de période chaotique parce que personnellement, je ne le vis pas au fond de moi comme une période sombre. Au contraire, je le vis comme un allègement et une espèce d'illumination intérieure progressive au fur et à mesure justement que les entités elles sautent, au fur et à mesure que l'anomalie plasmique se nettoie, en fait, on ressent de plus en plus de légèreté et de lumière. Mais par contre, et notamment pour les personnes justement qui n'ont pas fait encore ce travail élémentaire d'ouverture, notamment à, je dirais, à toutes ces connaissances alternatives, qui n'ont pas fait un travail forcément énergétique, eh ben, ça peut paraître une période sombre et très anxiogène. Enfin, je sais pas, voilà. Est-ce que vous souhaitez réagir sur ce point-là ? tout cas, moi, je ne le vois pas comme une période sombre, mais vraiment comme une période chaotique. Vous savez, c'est la fameuse métaphore, quand vous avez un verre et une cuillère, vous faites un vortex, vous créez un vortex dans votre verre avec une cuillère, et pour pouvoir repartir dans l'autre sens, donc changer de paradigme, eh ben, vous êtes obligé de passer par une phase chaotique avant que le vortex se recrée dans l'autre sens. Est-ce que quelqu'un souhaiterait réagir? Alors, parmi les co-animateurs, est-ce que vous souhaitiez intervenir? Période sombre ou pas période sombre? Comment vous voyez les choses entre août et décembre? Non, pas plus de commentaires?
Non, moi je ne la verrais pas comme une période de sombre. Hein.
Alors comment tu vois, Sandrine, justement?
Moi, je le vois comme avec beaucoup, beaucoup de mouvements, justement, en direction de surtout de la vérité et des ouvertures de conscience. Donc, c'est sûr que ça va être sombre parce que ben, il va falloir digérer les choses. Et puis que les gens, bon, ben, ça va un petit peu les réveiller un peu brutalement parce que ben, de bouche à oreille, de constatation en constatation, de cause à effet, de ci, de là, de l'autre, ça va être une période, je pense, mouvementée à ce niveau-là, en fait. Pour moi, c'est sûr, c'est sombre dans le sens où il va y avoir un petit peu d'agacement, il va y avoir de l'énervement, il va y avoir beaucoup de choses pendant 3 mois peut-être. Mais non, moi je le vois plus comme une libération en fait.
Mais on est en phase, mais ce qui est sûr, c'est que pour une fraction de la population, ça va être une période sombre. Enfin, je sais pas, je prends un exemple, les personnes qui se sont fait vacciner, voilà, qui se sont fait vacciner même 2 fois, qui face à la divulgation qui vient, vont se rendre compte que justement, bah, le vaccin, c'est pas du tout ce qu'on leur a dit, que le vaccin contient des oxydes de graphène qui finalement c'est le véritable objectif du vaccin et non pas la protection contre le coronavirus. Ces gens, on va leur demander de faire une troisième puis une quatrième injection. Ils vont découvrir qu'on les prend pour des guignols parce que de toute façon, même s'ils sont vaccinés, on va leur demander de porter le masque, on va peut-être les reconfiner, on va leur dire que vous avez autant de chances d'être malade que les autres ou d'être porteur du virus. Ils vont s'éveiller à tout ça et il va y avoir une colère qui va émerger. Et cette colère, elle va s'exprimer. Donc, dans ce sens-là, ça peut être une période sombre, je pense. Il va y avoir des prises de conscience et il va y avoir de la colère qui va monter justement face à cette pandémie et à cette situation inédite que nous vivons face à cette oligarchie.
Alors justement, je puis m'exprimer.
Reste bien près du micro, s'il te plaît.
Pardon, là, ça va
le plus près possible. Ouais, on a tendance à te perdre un petit là. Peu, mais ouais, c'est bon.
Ouais. Je disais justement, et si la première étape pour aider ces gens qui vont être en colère, qui ne sont peut-être pas en conscience tout de suite et qui vont prendre conscience très rapidement d'un coup, qui vont être réveillés en sursaut, on va dire, et si on regardait à nouveau, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, « La vie est belle » de Roberto Benigni, où il transcendait tout, mais vraiment tout, dans un camp de concentration pour que même les pires horreurs deviennent comme des jeux. Et je pense que ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est ça, c'est que peut-être c'est notre rôle aux éveillés, entre guillemets, sans élitiste, hein, élitisme, pardon, de relativiser les choses et puis d'apporter un premier pas, c'est-à-dire de la joie du jeu, de la dérision, enfin, de la dédramatisation de la chose. Voilà ce que j'avais envie de dire.
Ok, très bien. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite faire un commentaire? Toujours sur ce point. Non? Alors bon, à ce moment-là, je continue. Je vous propose de continuer. Donc par rapport à cette période, donc alors il est fait mention du fait que bon bah Cobra parle de nous encore, enfin parle de la France en l'occurrence. Quand je dis nous, excusez-moi. Hein. Donc il nous dit que les gendarmes, la police paramilitaire française, bon c'est les gendarmes, hein, soutenaient les manifestants et dans certains cas mener même la foule sans leur casque. Alors il donne un lien vers une vidéo qui montre effectivement les manifestations à Paris où on voit enfin, les, en fait, pour moi, c'était les CRS. Hein, on voit les CRS accompagner, enfin, plutôt encadrer le cortège. Alors, je ne sais pas s'il fait une bonne interprétation des choses. Nous, moi, quand je vois ces images-là, j'ai plutôt l'impression que les manifestants sont dans une espèce d'hypernasse où finalement, ils manifestent, mais à l'intérieur, je dirais, d'une chaîne de CRS. Alors, c'est vrai que les CRS ne portent pas leur casque. C'est vrai que les CRS ne sont pas du tout dans une attitude offensive et plutôt accompagnatrice. En tout cas, Cobra, lui, le voit comme un signe plutôt positif et il rajoute qu'il existe une faction positive très puissante au sein de l'armée française qui travaille en coulisses pour soutenir ce mouvement. Alors là, c'est vrai qu'il attise un peu notre curiosité par rapport à ça. Mais moi, je voudrais juste vous rappeler un point avant de vous donner la parole sur le fait que dans des mises à jour des situations planétaires précédentes, il avait été dit que à part les États-Unis, il y aurait un deuxième pays à la surface de la planète qui jouerait un rôle très important dans la libération planétaire. Et à ce moment-là, il nous avait dit qu'il ne pouvait pas dire lequel. Alors nous, on avait fait des paris, je crois qu'on les avait même fait en live, en direct, ça doit être dans un des enregistrements qu'on a fait ensemble, et on avait fait le pari que c'était la France. Alors bien sûr, on a le biais qui nous est propre parce que nous sommes français, mais on avait aussi de bonnes raisons de le penser. Et il semblerait que Cobra confirme ce point-là, que la France est ce deuxième pays qui va jouer un rôle clé dans cette libération. Et sans doute qu'il n'a pas voulu parler de la France préalablement, parce que justement, il y avait cette étape du 24 juillet dont nous avons parlé tout à l'heure avec cette activation faite par les prêtresses de la Résistance pour soutenir ce remake, quelque part, de la Révolution française que nous allons vivre. Alors, Cindy, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça, là, cette faction positive très puissante au sein de l'armée française. Il me semble que tu voulais intervenir là-dessus.
Oui, parce que en fait, concernant le mouvement de la Résistance et la préparation à l'événement, il y a une faction qu'on appelle les militaires positifs qui auront un rôle important à jouer. Et ça me rappelle qu'il y avait un article dans PFC, Prepare for Change, qui nous précise un peu le rôle de ces militaires positifs. Donc, c'est dans un article qui s'appelle « Sachez maintenant qu'il y aura une transition pacifique en douceur ». Donc, ça date un petit peu, mais donc depuis, c'est évolué. Donc, on nous dit sur les militaires positifs, donc les militaires positifs des USA, de la Russie et de la Chine, et d'autres pays depuis, sera le groupe de la surface en coulisses fournissant la technologie, les transports et la logistique au moment de l'événement. Certains membres des forces militaires russes et chinoises font partie de l'Alliance de l'Est et travaillent sous la guidance indirecte du mouvement de la Résistance pour libérer cette planète. Les militaires positifs ont joué un rôle majeur dans le retrait des frères musulmans d'Égypte. À cette fin, ils ont bénéficié du soutien tactique du mouvement de la Résistance, des Templiers positifs et de la Société du Dragon Blanc. Donc, la manœuvre historique des militaires positifs en Égypte le 3 juillet 2013 était une grande victoire de la lumière. Le 16 août 2013, nous avons appris que les forces de la lumière créent des réseaux positifs parmi les forces militaires du monde entier préparant l'événement. C'est le groupe positif le plus puissant sur la surface de la planète. Ils ont développé le plan pour la libération planétaire avec l'aide invisible du mouvement de la Résistance. Environ 3/4 des militaires sont d'accord avec ce plan et c'est la masse critique suffisante pour que ce plan devienne réalité. La majorité de ce groupe n'est pas au courant de la main amicale invisible de la Résistance. Certains d'entre eux, occupant des postes élevés, sont bien conscients de leur contact de la Résistance, mais ne l'admettront pas car c'est une information classifiée. La motivation principale des militaires positifs est de restaurer la souveraineté et la liberté de la population humaine sur Gaïa. Au moment de l'événement, il y aura une possibilité de troubles sociaux à différents endroits du monde. Ce ne seront que des cas isolés selon Cobra. Les militaires positifs et le groupe positif le plus puissant sur la surface de la planète. Ils ont développé leur plan avec l'assistance du mouvement de la Résistance de la Lumière. Le mouvement de la Résistance soutiendra les militaires principalement avec des données de renseignement sur les Illuminati et quelques conseils logistiques, mais ils resteront majoritairement en coulisses. Les militaires positifs aux USA, en Russie et en Chine coopéreront durant l'événement. Ils ont une connaissance claire depuis longtemps sur quel sera leur rôle à ce moment-là. ils n'utiliseront absolument pas d'armes. Il y aura un certain nombre de membres de la famille galactique impliqués. Ils auront le soutien d'armes, à défaut de meilleurs mots, qui peuvent geler, entre guillemets, temporairement les gens. On a vu ça dans des films comme Men in Black. Les forces militaires et policières aideront d'une manière positive. Donc, pendant l'événement, les militaires soutiendront l'autorité civile, aux USA par exemple par l'intermédiaire des marshals fédéraux et à travers le monde par l'intermédiaire d'Interpol, qui soutiendront l'application de la loi locale pour arrêter les membres de la cabale. Voilà. Donc je pense que ça éclaire assez sur le rôle des militaires positifs. Voilà.
Ben, merci beaucoup pour cette précision. Alors c'est vrai que ça peut laisser un petit peu sceptique. Moi j'ai participé récemment justement à des manifestations donc contre le pass sanitaire et il y a des personnes donc qui sont évidemment très anxieuses et qui me disent mais alors maintenant on fait quoi? On n'a pas le droit d'user de la violence parce qu'on sait que la violence va se retourner contre nous. Effectivement il faut peut-être essayer d'être créatif dans la façon de manifester, mais au final on fait quoi et qu'est-ce qui va nous permettre de renverser tout ça? Alors ben ça peut sembler effectivement difficile à croire, mais il va arriver un moment, et c'est ce qu'on appelle l'événement, où la cabale aura été tellement loin, aura été trop loin, et parce que aussi on sera dans les conditions favorables pour cela, que les militaires positifs coordonnés avec le mouvement de la résistance vont pouvoir mettre en place des arrestations coordonnées à la surface de la planète pour mettre un terme à cette situation de façon pacifique. Mais c'est vrai que voilà, on vous demande de le croire, mais on peut pas vous apporter de preuves tangibles de cela. Nous, on voit des signes. Alors, il y a eu cette tribune des militaires dont il a été question, dont nous avons parlé d'ailleurs dans une mise à jour de situation planétaire, cette tribune des militaires français qui s'est exprimée par rapport à la situation actuelle. Donc, après, moi, je pourrais pas en dire plus par rapport à cette faction positive au sein de l'armée française. Je ne sais pas, Jonathan, si tu aurais des choses à dire par rapport à ça.
Non, j'ai pas plus d'informations. Je pensais exactement la même chose avant que tu cites la tribune. Que c'était d'ailleurs Cobra. C'était il y a un mois environ, peut-être un peu plus, exprimait que c'était que c'était la pointe de l'iceberg de quelque chose de beaucoup plus profond dans l'armée française. Et de plus profond positivement. Donc voilà, donc on peut faire un lien logique avec son dernier poste, mais en soi, j'ai pas plus d'informations que ça. Je suis comme tout le monde, la faction positive dans l'armée française, personnellement, je la cherche encore, mais je vais plutôt faire confiance aux informations de Cobra, et ça me semblerait logique d'ailleurs qu'il y ait cette faction-là qui soit puissante. Mais bon, s'ils ne sont pas encore intervenus ou ne le font pas là à court terme, c'est qu'ils savent que c'est pas encore le moment et que il y a tantôt un risque de le faire trop tôt et de la mauvaise façon, et puis qu'ils sont en lien avec des forces un peu supérieures entre guillemets que tu as évoquées tout à l'heure, et donc ça doit se faire de manière synchronisée.
Ouais, tout à fait. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les militaires positifs, certains sont en lien avec le mouvement de la résistance et d'autres sont en lien avec des galactiques positifs. Alors là, bon, je suis désolé pour ceux qui débarquent sur cette radio Pléiade, mais c'était un point qui avait été évoqué aussi dans une mise à jour de situation planétaire précédente, c'est que notamment la Chine, les États-Unis et la Russie sont en lien avec les Pléiadiens. Et les Pléiadiens donc sont des galactiques positifs. Donc en fait, cette libération planétaire va se faire aussi de façon coordonnée avec des forces extraplanétaires d'une certaine façon. On parle du mouvement résistance, mais on parle aussi de forces extraplanétaires. Alors je sais à quel point cela peut paraître abracadabrantesque. Ceci étant, on a aussi un certain nombre de signes qui nous font penser que ça va se passer de cette façon, même si j'ai conscience que ça peut vous paraître assez fantastique, cette histoire. Alors, je sais pas s'il y a d'autres réactions par rapport à ça, mais donc si on continue la lecture de cette mise à jour, donc les manifestations ont eu des effets positifs. Et c'est ce dont parlait Marion tout à l'heure, effectivement. Et Macron a été forcé de revenir partiellement en arrière sur le mandat passeport vaccinaux. Alors, bon, moi, j'ai pas eu trop le sentiment qu'il soit franchement revenu en arrière. C'est là où on a vraiment gagné quelque chose, c'est par rapport au fait qu'il n'y aura pas de camp d'isolement pour les personnes qui sont testée positive, alors dont le test répond positivement, on va dire les choses comme ça, parce que des personnes dont le test répond positivement ne sont pas forcément des personnes malades, ne sont pas forcément des personnes contaminées ou des personnes contagieuses, ça peut être des personnes tout à fait saines, puisqu'on sait que les tests PCR testent à peu près n'importe quoi et créent énormément de faux positifs. Donc, on a évité ces camps d'isolement. Moi, c'est le point le plus positif que j'y vois. Donc, il n'est plus dans la loi d'extension du pass sanitaire. Mais ceci étant, et je rejoins tout à fait Marion sur cet aspect-là, les manifestations ont un effet tout à fait positif. Et moi, je vous engage à apporter votre lumière dans les manifestations là où vous vous trouvez, en France ou ailleurs. Allez-y et faites en sorte justement que, comment dire, j'ai envie de dire, avec notre conscience, avec notre niveau de conscience, avec notre paix et notre lumière, on apporte justement cette énergie stabilisatrice dans ces manifestations, qu'on nourrisse cet égrégore positif qui est aussi un signe très fort justement pour les galactiques positives dont je parlais tout à l'heure.
À titre personnel, j'étais assez réfractaire par rapport aux manifestations, mais c'est vrai qu'en fait, avec ce qui se passe actuellement et le recul, c'est extrêmement positif d'être là-bas, en présence, en intention, et même si on peut y aller avec de la symbolique, ça peut être tu vois, un t-shirt fleur de vie ou n'importe quel symbole puissant qui n'a pas été détourné par la cabale ou sali, c'est clairement un plus. Donc ouais, de manière pacifiste, ça semble la meilleure solution, très clairement. Je sais qu'il y en a qui sont frustrés de vouloir passer à l'action, etc., mais... Je suis assez mitigé sur ça et vaut mieux pas jouer le jeu d'en face alors qu'ils s'attendent, ils s'y attendent largement. Ils excitent, ils jettent de l'huile sur le feu, ils avaient prévu, parce qu'il y a environ 6-7 mois, ils avaient passé les plus grosses commandes de LBD, de flashball, etc. Donc ils sont prêts et rodés à ça.
Ouais, tout à fait. Donc je sais plus si je vous l'ai lu, mais je vous le relis, c'est tellement important. Les forces de la lumière ont fait savoir que les protestations pacifiques contre la tyrannie médicale soutiennent le processus de libération planétaire et peuvent réduire considérablement le niveau de violence qui pourrait survenir au plus fort de la transition, donc cette période sombre que nous évoquions précédemment. Et donc, tu parlais de la fleur de vie, donc dans la période volatile d'août à octobre, faire la méditation fleur de vie sera également très bénéfique. Donc voilà, symbole fleur de vie. Moi, je pensais aussi à... Alors moi, j'ai un t-shirt fleur de vie, effectivement, je pourrais y aller avec en manifestation, mais je pensais aussi à la pierre Sintamani. À partir du moment où on reste dans de belles énergies, on peut aller participer à une manifestation avec une pierre, comme ça vous en faites profiter tout le monde, toutes les personnes qui sont autour de vous. Enfin voilà, en tout cas, il y a plein de choses à faire pour ancrer la lumière dans ces manifestations.
Bah, la pierre Shintamani, fleur de vie, ça me semble pas mal du tout. Et d'une manière générale, tout ce qui est aconisé, et ceux qui ont la chance d'avoir, tu sais, les résonateurs que Cobra, enfin le réseau Cobra vend là. Ah, j'ai oublié, Marion, faudrait que tu m'aides le terme technique du résonateur. Je sais plus c'est quoi le nom complet.
C'est un QFR, enfin, mais ça c'est un acronyme anglais. C'est un résonateur à fluctuation de champ, je crois. Quantic fluctuation resonator en anglais, un truc comme ça. Et d'ailleurs, okay, à ce propos. Merci. Et à ce propos, justement, je ne sais pas si Gwen nous écoute, mais elle a un sac à dos spécial pour trimballer justement ce résonateur à fluctuation de champ. Tu pourras aller te promener dans les manifestations avec, Gwen. Je ne sais pas si tu nous écoutes.
Si, oui, exactement. J'ai fabriqué une petite boîte dans laquelle je mets le résonateur quand je suis dans certains endroits, dans un petit sac à dos. Ouais. C'est très intéressant, oui.
Alors, juste pour répondre à Jonathan, si je peux me permettre.
Permets-toi, je t'en prie.
Merci. Du coup, par rapport, en fin de compte, au symbole qui avait éventuellement dans les manifestations, donc je voulais juste informer que j'ai été donc témoin d'une chose assez cocasse. Donc, c'est qu'une personne, en fin de compte, a présenté le drapeau de la Fédération Unie des Planètes dans la manifestation. Et donc, on pouvait vraiment pas le rater. Elle était en plein milieu, donc ça m'a interpellé, je trouvais ça assez marrant, assez cocasse. Et pour partager mon expérience par rapport, du coup, donc pour répondre à Jonathan, ce qui disait qu'effectivement, au début, il était contre l'idée des manifestations, j'y étais parce que j'estimais aussi que c'était symboliquement hyper important, en tout cas pour ma part, au moins d'être là, de dire, voilà, j'étais là, je suis là. Donc je trouve ça assez incroyable. Et pour partager donc du coup mon expérience, c'est qu'il y a vraiment une vibration, mais alors incroyable, dans ces manifestations. Il y a vraiment un alignement. Moi, j'ai ressenti vraiment un alignement sur les discours. Enfin, j'ai été donc pour information dans les manifestations donc de Philippot, qui étaient donc gérées par des agents de sécurité privés. Donc il y avait aucun, il y a eu aucune casse, aucune violence. C'était très familial. Il y avait vraiment, on était vraiment alignés dans le cœur. Donc j'ai vraiment senti une fraternité quand les gens chantaient, que ce soit la Marseillaise ou qui chantaient simplement des discours mobilisateurs. J'ai trouvé ça hyper hyper rassurant. Ça vraiment, ça nous a renforcé dans notre élan vers l'amour, vers l'unité que j'ai vraiment rarement, voire jamais trouvé dans aucune autre manifestation. Alors je tiens à dire que je suis pas un pro des manifestations. J'ai dû en faire peut-être deux dans ma vie, mais là c'est vraiment, on est passé à un autre niveau. C'est vraiment, j'ai senti quelque chose de que j'avais jamais ressenti. J'ai emmené une amie qui était vraiment désespérée. Parce qu'elle, elle travaille aux ARS. En fin de compte, on a demandé aux ARS de donner une preuve de vaccination donc à partir du 15 septembre. Donc, elle était vraiment dans une situation pratiquement dépressive. Elle était très mal. Je lui ai dit, écoute, viens à la manif et on va voir. Elle ne voulait vraiment pas y aller. Elle était quasiment prête à se faire vacciner. Et là, je l'ai trouvée dans un état complètement revivifié. Après, on est parti dans un resto, donc c'était avant que le pass sanitaire soit obligatoire. On était parti à la manif du 24 juillet. Et elle est repartie reboostée. Elle m'a dit, écoute, Sony, la semaine prochaine, on y va. Et on y retourne. Et donc voilà, donc maintenant, elle est vraiment en train de se battre, en train d'essayer de voir comment elle va faire à la rentrée pour ne pas se faire vacciner, pour gagner du temps. Donc elle est vraiment dans une logique vraiment positive. Et d'ailleurs, là, ce week-end, je l'ai retrouvée du coup dans une association permacole dans laquelle je suis. Et là, voilà. Là, vraiment, on développe aussi tout le travail, tout ce qui est vraiment l'après. C'est-à-dire que si éventuellement il y a une chute à un moment donné systémique, partielle, je ne pense pas qu'il y aurait une chute globale, mais s'il y a une chute partielle, par exemple, effectivement, j'ai vu avec des amis qu'effectivement, si par exemple, les gros distributeurs français étaient coupés en approvisionnement, en l'espace de 3 jours, il n'y aurait plus rien sur toute la France. Donc, grosso modo, on a un délai de 3 jours entre le moment où ça coupe et au moment où il y a la pénurie. Et donc, on développe vraiment des projets. On a plusieurs hectares en Bourgogne pour développer justement et accompagner et récupérer tous ces gens qui vont être un peu déboussolés. Mais on ne pense pas que ce sera la catastrophe totale. Mais voilà, on est là. Et là, elle a rejoint ce projet qu'elle ne voulait absolument pas entendre parler il y a encore quelques années. Et là, elle commence à y penser. Et là, je la retrouve juste après les manifs, après cette énergie super positive, pas encore intégrée dans notre projet. Mais j'ai induit, en fin de compte, les manifestations induisent vraiment une positivité, une énergie vraiment forte. Et donc voilà, pour moi c'est hyper positif. Et quand j'ai vu ce drapeau de la Fédération Unie des Planètes, j'ai rigolé, j'ai repensé un peu à tout ce qu'on avait pu voir avec les Pléiadiens, avec effectivement Cobra, etc., que moi je suis depuis quelques années, mais j'ai arrêté, hein. Honnêtement, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que vous en parlez, mais du coup voilà quoi. Donc voilà, juste un message positif et pour vous dire, n'hésitez pas à venir. Moi je pourrais pas être là la semaine prochaine, mais je pense que je serai là au manif à la rentrée. Et donc, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui ne se montrent pas forcément, mais qui travaillent sous d'autres aspects. Voilà. Donc, globalement, on est dans le lien, on est dans l'union. Et pour vous dire que voilà, donc, je pense que ça va bien se finir. Et puis, dernier petit message que je voulais dire, dont je n'ai pas parlé, alors c'est peut-être un petit peu hors sujet, mais c'est par rapport à l'événement. Alors, j'avais participé à un salon, il me semble que c'est sur YouTube. Donc, j'ai mis un commentaire. Donc, juste par rapport à l'événement, donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir accès au. Alors, je sais que c'est dingue ce que je vais dire, mais donc aux annales akashiques, quand j'étais très jeune, donc j'avais 12 ans, donc c'était absolument inouï. Hein, c'est la quantité d'informations est colossale. J'ai eu une chance incroyable donc, d'avoir accès à ça. Et donc les informations qui m'ont été transmises pendant cette expérience, alors j'ai compris que je suis conscient que je n'ai aucune légitimité enfin, à part de témoigner de moi-même, de mon expérience, mais de ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, il y aura quelque chose en la date que j'ai eue, c'est 2027. C'est quelque chose que j'ai eu à plusieurs reprises. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais le plus gros, entre guillemets, de l'événement, je ne sais pas si l'événement, c'est quelque chose de radical et de brutal, ou c'est quelque chose qui s'étale. Est-ce qu'on a déjà, par hasard, est-ce qu'on n'a pas commencé l'événement et qui ne va pas finir, en fin de compte, d'aboutir vers 2027? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que 2027, ce sera une date clé et stratégique. D'un point de vue historique à l'échelle mondiale. Donc voilà, je ne sais pas si cette date, à un moment donné, elle est ressortie quelque part. J'en ai pas vu l'ombre. J'en ai jamais entendu parler. En tout cas, je voulais juste dire que moi, j'avais vu ça 2027 et ce serait probablement fin mars 2027, donc en début d'année. Donc voilà, c'était juste pour ce témoignage et vous dire que je vous envoie plein d'amour. Vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul. Je trouve ça vraiment une grâce de voir qu'il y a quasiment une centaine de personnes en ligne. C'est formidable. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous aime.
Ben merci à toi, Sony. On t'aime aussi. Hein. Et par rapport aux manifestations, je suis complètement en phase avec toi. Je disais justement à d'autres occasions que je ne suis habituellement pas de ceux qui manifestent. Et j'ai fait plusieurs manifestations et franchement, j'ai adoré. À chaque fois, je rencontre des gens que je connais. On a plein de choses à se dire. Même avec des gens que je ne connais pas, bien évidemment, on a plein de choses à échanger. Il y a vraiment une très belle énergie pour l'instant sur ces manifestations. Et moi, ce que j'adore justement, c'est cette créativité énorme justement sur les pancartes, les messages que veulent faire passer les gens. Tu parlais de ce symbole de la Confédération des planètes, mais c'est voilà, il y a des choses extraordinaires et des messages aussi intéressants à lire les uns que les autres. Donc voilà, moi j'adore cette créativité justement lors des manifestations. Alors juste un petit commentaire par rapport à la date que tu citais. Moi, c'est pas du tout la vision que j'en ai. Hein. Pour moi, 2027, c'est beaucoup trop loin et je pense que on va pas tenir jusque là hein, pour attendre l'événement et la transition. Pour moi, c'est une histoire de mois. Ce n'est certainement pas une histoire d'année. Alors je peux me tromper, mais en tout cas, dans les informations qui ont été communiquées par Cobra, en fait, on a une fenêtre d'ascension qui se termine en 2025. Donc,
juillet 2025.
Ouais, merci. Ouais, vas-y, tu peux préciser peut-être, Jonathan ?
Non, c'est ça, c'est 1975 à juillet 2025. Donc, c'est la fenêtre, parce que j'ai compris, théorique et cosmiquement théorique pour l'événement. Donc, 2027, c'est peut-être un peu autre chose. Après, il y a l'événement et quelque chose d'éclair, de brutal, avec d'énormes guillemets, comme tu as précisé, pour reprendre ton terme. Mais après, c'est juste un pilier pour bien d'autres choses après. Mais l'événement lui-même, non, c'est pas étalé vraiment sur le temps, non.
Enfin bref, peut-être que ça correspond à quelque chose de très concret, effectivement, pourquoi pas. Ce qu'on appelle l'événement, donc, on va dire, c'est la conjonction de trois éléments simultanés, c'est-à-dire une vague galactique de lumière, des arrestations massives et simultanées à la surface de la planète et la réinitialisation du système financier. C'est ce qu'on appelle l'événement avec un grand E. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les mois qui viennent et le plus vite possible parce que justement, on est vraiment dans cette phase d'accélération et on le sent très, très bien. Donc, il faut que ça ait lieu le plus vite possible.
Par contre, 2027, ça peut vaguement correspondre sans forcément faire des projections de date avec quelque chose comme le premier contact. Comme on sait que ça arrive entre 1 et 2-3 ans après l'événement, ça peut sembler plausible, ce qui est quand même un gros morceau, quoi, si le premier contact.
Ou éventuellement, une révélation d'ordre messianique qui pourrait du coup canaliser un mouvement populaire.
Qu'est-ce que tu appelles messianique ?
Il y a différents. Il y a les trois religions monothéistes qui attendent en fin de compte leur messie, en gros, tout simplement. On va voir les juifs qui attendent leur messie, les chrétiens qui attendent le retour promis donc, de Jésus, les bouddhistes aussi qui attendent en l'an, je crois, c'est en l'an 3000 bouddhique. Là, actuellement, on est en l'an 3030 du bouddhisme, donc c'est assez exceptionnel d'un point de vue des dates. Il y avait aussi une prophétie, ça c'est par rapport à l'islam, je m'étais renseigné, mais qui donnait la durée de vie donc, de l'islam devait durer normalement 1400 ans. Donc si vous prenez la date de l'Égypte et que vous rajoutez 1400 ans, on est en plein dedans. Donc théoriquement, l'islam devrait finir, selon ces prophéties bien sûr, hein, aux alentours de 2020, entre 2020 et 2074 au plus tard. Pareil pour les bouddhiques, pareil pour les chrétiens, à peu près on est en plein dans les temps de la fin. Et du coup, voilà, donc par exemple, on a eu des déclarations de certains raves juifs qui disaient qu'effectivement, qu'ils l'ont dit encore, j'ai écouté une vidéo il y a deux jours, ils ont dit le Messie, on sait qu'il est là. Donc ça veut dire qu'il a été repéré chez eux. Donc je ne sais pas s'il va incarner, alors, bien sûr c'est une lecture très, on va dire très... très religieuse, mais est-ce qu'il va incarner l'antéchrist ou pas, Est-ce qu'il va y avoir vraiment, voilà, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de cet ordre-là, de sorte d'induction spirituelle, une canalisation spirituelle pour guider un peu des foules de gens qui attendent, en fin de compte, qui sont là, qui sont dans l'attente et qui attendent le retour de leur Messie, d'un leader spirituel. Chez les musulmans, c'est le Mahdi, plus précisément le Hazrat Mahdi. Et donc voilà, donc on a pas mal de gens qui sont en attente. Et je ne pense pas que la révélation extraterrestre et que de l'autre côté une épaule on va dire étatique va apporter une solution spirituelle. Donc il y aura beaucoup de gens qui vont être un peu perdus. Et donc est-ce que à ce moment-là on verrait pas de nouveaux leaders spirituels se développer et pouvoir conduire un petit peu ces gens-là et de manière en fin de compte à donner une sorte d'ordre, un nouvel ordre qui pourrait être d'ordre spirituel, scientifique et social. Donc est-ce que ce serait pas le rôle de ces gens-là?
Disons qu'après l'événement, la structure sociétale, étatique va beaucoup changer et ce genre de mécanisme sera plus d'actualité. On sera plus, je pense, dans des, même si j'ai cru comprendre, même dans la grille de lecture Cobra, qu'à un moment, l'énergie de Jésus ou Sananda, appelez ça comme vous voulez, plutôt Sananda d'ailleurs, va être recanalisée dans un corps et donc il va remarcher parmi nous. Mais au-delà de ça, qui apparemment sera dans plus longtemps que ça, dans 20 ou 30 ans, après l'événement, au-delà de ça, je pense qu'on n'est plus dans une grille de lecture et un moment où l'énergie, où il va y avoir des leaders spirituels un petit peu. Je pense qu'on est plus dans l'énergie, le retour de l'énergie christique et même de la déesse, et qu'on est plutôt dans un retour de la souveraineté personnelle, tu vois. Donc ça me parle moyen, mais bon, on va savoir, mais ça me parle pas trop, quoi.
Alors juste...
Ok, oui, vas-y.
Une petite phrase. Par rapport à ça, si, parce que si on lit d'ailleurs l'escalier de cristal que je recommande et que Cobra a recommandé, même si ça a un peu changé depuis les années 80, la ligne de temps, en fait, si, il y aura quand même un retour de personnes qui aura, le premier groupe qui aura ascensionné, c'est à peu près, alors de ce qu'avait dit Cobra à l'époque, c'était 2000 personnes, enfin on ne sait pas trop combien, mais quelques milliers.
Reste bien près du micro, Marion.
Oui, là vous m'entendez mieux. Allô ?
Je te sentais fuyante, mais vas-y, rapproche-toi bien du micro, ouais.
Là vous m'entendez ? Allô ?
Faiblement, mais vas-y.
Non, je disais si on se réfère au poste de Cobra et par exemple à l'escalier de cristal, dans le plan de l'ascension, comme il y a trois vagues, il y a effectivement la première vague de personnes ascensionnées, donc qui sera la plus petite portion au départ. C'est quelques milliers de personnes. Ces personnes-là vont revenir en maître ascensionné. Mais c'est pas messianique, c'est pas dans une référence biblique ou c'est pas vraiment. Ah oui,
non,
ça.
Mais là c'est autre chose.
C'est un peu des gens qui vont un peu montrer la voie spirituelle, qui seront initiés et qui seront ascensionnés et qui donc seront capables de transmettre des choses à l'humanité pour la partie qui est pas encore ascensionnée, tout simplement. Mais de toute façon, sur la date de l'événement, il n'y a pas de date. Même là, c'est la source qui sait et ça sera en fonction de différents paramètres. Donc il n'y a pas de date prédéfinie nulle part. Alors en plus, on m'interroge parce que les annales akashiques, pour moi, alors de ce que moi j'en connais, c'est plutôt sur les mémoires de l'univers. Donc je vois pas bien comment dans les annales akashiques il y a des prédictions sur l'événement. Ça j'avoue que ça m'interpelle.
Alors ouais, du coup alors. Alors, du coup,
excusez-moi, je voudrais pas qu'on dévie trop du sujet sur la question. Mais enfin, tu peux conclure, Sony, s'il te plaît, mais on va arrêter sur ce sujet-là.
Je clôt. Ouais, en fait, tu n'as pas l'accès au futur, mais tu as toute l'information et donc tu peux potentialiser le futur. Voilà, juste ça. Tu peux prédire, en fin de compte, grâce aux données que tu as. Tu peux dire, voilà, potentiellement, il peut se passer ci, ça, ça ou ça. Et lorsque tu, on va dire, quand tu zoomes, c'est une sorte de kaléidoscope de lumière. Enfin, c'est assez particulier, c'est bizarre. Mais en gros, tu as accès à toutes les informations. Quand tu te plonges dedans, tu peux te rapprocher des réalités, de la réalité présente jusqu'à temps, en fin de compte, à accéder. C'est comme si, en fin de compte, tu regardais une... Vraiment pour schématiser, hein, imagine un brin d'herbe poussé. Donc, tu regardes le bout du brin d'herbe. Et là, tu te dis, tiens, je veux vraiment aller à la source. Et donc, tu descends, tu arrives au ras donc, du brin d'herbe et tu vas jusqu'à la racine. Et la racine, c'est l'horizon des événements. Donc, on va dire que c'est le présent, c'est l'ultime présent. Donc, c'est le présent que nous vivons actuellement. Donc, tu peux arriver jusqu'à là. Et ce qui se passe, c'est que quand tu vis ça, c'est comme si ton esprit, en fin de compte, il englobait l'esprit de tous les êtres humains au même moment. Et donc, en fin de compte, tu fais partie de l'humanité comme si tu étais un seul esprit, comme si tu étais entre guillemets, je dis bien entre guillemets avec trois guillemets, comme si tu étais Dieu. Et donc, de fait, tu as accès à toutes les informations. Et avec ces informations-là, tu peux dire, ah d'accord, je comprends ce qui se passe réellement. Et à partir de là, tu peux dire, voilà, l'humanité, telle chose est impossible, telle chose est impossible. Et quand tu sais ce qui n'est pas possible, tu peux savoir et réfléchir et dire, voilà, potentiellement, il va se passer ci, ça, ça et ça. Et les dates pour ci et ça, ce seront à peu près là. Donc voilà, mais c'est tellement vaste qu'effectivement, on pourra en parler indéfiniment et retomber au point de départ. Mais voilà, c'est effectivement, tu ne peux pas prédire le futur. Ça, c'est tout à fait juste. Voilà, merci de m'avoir laissé la parole.
Donc, encore un sujet pour une autre émission sur les annales akashiques. Pourquoi pas, effectivement, ça pourrait être très intéressant. Restons en contact et contacte-moi même en message personnel. Et on pourrait programmer ça justement une fois. Alors, je suis désolé, il y a des gens qui lèvent la main et je n'ai pas forcément la possibilité de... Il y avait Sonia G, je crois, qui avait levé la main. Si tu peux activer ton micro, si tu le souhaites. Je ne peux pas donner la parole à tout le monde. Je suis désolé et je tarde à vous la donner.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Oui, alors, en fait, moi, c'était plus en lien à ce qu'on disait avant que l'on parte sur les annales akashiques et ça, puisqu'on parlait de la fleur de vie, des manifestations, des énergies d'amour dans les manifestations, etc. Et donc, je rebondissais là-dessus quand j'ai levé la main, donc je ne sais pas si c'est pas trop tard.
Oh, très bien.
En fait, moi, je fais partie du groupe que Sandrine et Florence gèrent, donc Méditons Ensemble. Et donc, on médite beaucoup, on a fait des colonnes bouddhiques extraordinaires, etc. Et la semaine dernière, donc moi, je vais à ma première manif la semaine dernière. Donc, on est quoi ? Pas ce samedi, mais le samedi d'avant. Donc, je l'ai raconté aux filles sur le groupe l'autre jour, ce qui m'est arrivé. Et je vais à cette manifestation. Je ne suis pas quelqu'un qui manifeste habituellement, mais bon, j'y vais avec mon fils, qui lui a plutôt habitude d'y aller. Il est surtout en première ligne, alors pas dans ceux qui tapent, mais il aime bien manifester. Bon, je l'accompagne et tout ça. Et puis, j'ai passé une journée extraordinaire. On chantait, on dansait, enfin bon, c'était super cool. Et arrive le moment où, alors il faut savoir qu'on avait déjà pas mal médité avec les filles le matin. Moi, de mon côté, j'avais médité aussi, je m'étais fait des bulles de protection. Et ce jour-là, je ne l'explique pas, j'étais énergétiquement extrêmement bercée par... j'ai aussi, on va dire, une affinité avec l'énergie de la déesse assez forte. Et pour en avoir beaucoup parlé avec Romain aussi, l'énergie de la déesse est quelque chose qui me touche énormément et qui me berce beaucoup. Et donc, j'étais partie avec méditation avec les filles, mais aussi, à titre personnel, je m'étais préparée énergétiquement d'être dans la paix, dans l'amour. Et j'avais mis des fleurs de vie sur Nantes, parce que je suis de Nantes, etc. Et il s'est passé un truc de fou, c'est que vers la fin, bon, comme dans toutes les manifs, enfin, dans cette manif-là, en tout cas, ils ont demandé à faire le truc, là, l'éparpillement, etc., général. Et j'étais assise sur un plot parce que j'envoyais des énergies d'amour parce que je commençais à voir des bombes, des machins qui puent, là, qui piquent, partir dans tous les sens. Et je restais là et en fait, j'étais complètement en dehors du truc. Limite, j'étais pas sur mes jambes. C'était assez particulier ce qui s'est passé. Et je vois une troupe de CRS qui se pointe. Alors, j'admets que je suis extrêmement naïve, etc. Je suis toujours dans l'amour. On m'appelle, ma soeur m'appelle le bisounours, d'ailleurs. Et je vois une troupe de CRS qui se pointe près de moi. Et mon fils m'avait dit, surtout, ceux-là, tu fais hyper gaffe à eux parce qu'ils sont assez violents, etc., etc. Ils poussent des vieux. Enfin bon, il m'a dit, ça fait 3 semaines que j'y vais. Ils avaient violenté des personnes âgées. Ils avaient repoussé des enfants. Enfin, ils étaient vraiment dans la force. Alors, faut même pas leur parler, sinon ils ont la matraque facile. Bon. Et d'un seul coup, mes jambes me portent. Je vous jure, hein, j'ai pas calculé le truc. Je me déplace et je vais les voir. Et à ce moment-là, ils me regardent arriver. Mais à aucun moment on m'a poussé. Aucun moment on m'a laissé. On m'a éjecté. Je me suis même retrouvée parmi eux et je marchais à côté, parmi eux, c'est-à-dire que j'avais les CRS sur ma droite et sur ma gauche. Et on marchait ensemble et je leur parlais. Et je leur ai dit, mais pourquoi faites-vous cela ? Et donc, il y a le chef qui fait, ouais, on a, avec une grosse voix, il me dit, on a ordre de d'éjecter tout le monde, je ne sais plus. Il me sort le mot militaire du truc. Et là, je les regarde et je leur dis, vous savez, et tout en marchant, parce qu'on marchait, et je dis, vous savez, j'ai vécu. Je suis ancienne femme de gendarme, donc j'ai vécu dans une brigade, dans tout ça, pendant 17 ans. Je sais de quoi je parle. Je sais qu'en dessous ces uniformes-là, il y a des hommes, il y a des pères, il y a des fils, mais il y a des maris aussi. Et ce que j'essaye de comprendre, c'est pour que vous, humain que vous êtes, comment faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela? Expliquez-moi, je veux juste que vous me l'expliquiez, que je veux le comprendre. Et tout ça, c'était avec une telle douceur, je contrôlais pas ce que je faisais, hein, je tiens à le préciser. Et à ce moment-là, il y a un des gars qui m'a regardé, il a eu le regard vide, personne ne m'a répondu. Attention, on s'est pas tapé une barre, on s'est pas fait de la bise et tout, hein. Mais à ce moment-là, à aucun moment, il y a eu de rage, de colère ou de haine. On m'a regardé. Et après, ils se sont remis en mode robot et ils sont repartis. Ils ne m'ont pas répondu. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est ce que je disais à Sandrine et Florence, c'est qu'à aucun moment, j'ai eu de haine. Ils ont eu de la haine à mon égard. Ils ne m'ont frappé, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que l'amour a été plus fort que tout à ce moment-là. C'est-à-dire que cet amour que j'avais, que je portais en moi, grâce à tout ce que nous méditons, etc., et puis bon, aussi au travail que je fais, les a portés un instant et les a peut-être anesthésiés quelques instants. Et quand mon enfant m'a vu de loin faire ça, il était fou, il arrivait en courant, il me fait « Putain, qu'est-ce que tu as fait ?» et tout. Et il me dit « Mais tu te rends pas compte, ce sont ceux à qui il ne faut pas parler. » Il me dit « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, ça fait 3 semaines que je viens et à chaque fois, ce sont ceux qu'il ne faut pas approcher. On peut même pas leur parler, sinon ils fracassent tout le monde. » Il me dit « Mais qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'ils ne te poussent pas ?» Et il était choqué. Et en fait, j'ai envie de dire que c'était l'amour, tout simplement. Et cet instant-là a été juste extraordinaire. Voilà. C'était un petit témoignage sur l'amour qui peut, à mon sens, apaiser même les personnes les plus lobotomisées ou les plus fâchées. Ou... L'amour est plus fort que tout. C'est vraiment le truc que je tiens à dire. Voilà.
Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et effectivement, ouais, je sais que les manifestations à Nantes ont une sacrée réputation. Je pense à Nantes révoltée notamment, qui font aussi que, enfin voilà, ces manifestations souvent sont assez clés. Et donc voilà, donc finalement, tu nous as démontré que l'arme de David, c'est l'amour. Ce David contre Goliath, hein, il va gagner justement grâce à l'amour.
Oui, tout à fait. Merci.
Alors, je vais continuer parce que le temps passe pour qu'on finisse de commenter justement cette mise à jour de situation planétaire. Donc, en fait, Cobra nous invite à noter dans notre agenda la date du 18 septembre. Alors, allez-y, ouvrez votre agenda au 18 septembre et notez-le. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, en plein milieu de cette période d'août à octobre, du carré Eris-Pluton, certaines opérations importantes des forces de la lumière seront achevées. Et vers le 18 septembre, les forces obscures pourraient enfin commencer à perdre leur pouvoir sur le plan physique à la surface de la planète. Alors, moi, donc déjà, c'est un pourrait, hein, c'est un conditionnel, on est bien d'accord. Donc, ça va dépendre justement de la façon dont nous allons rayonner l'amour pour que ces opérations soient achevées en temps et en heure. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se désespèrent en fait de ne pas voir d'effet sur le plan physique. C'est vrai qu'on a fait énormément de choses, on a fait plein de méditations qui ont dépassé la masse critique, notamment l'année dernière. On participe à plein de choses, plein d'actions énergétiques. Et puis, il nous manque quand même des concrétisations dans le plan de la matière. Et là, figurez-vous que justement, à partir du 18 septembre, il pourrait se passer des choses importantes et intéressantes qui montreraient la matérialisation de la victoire de la lumière sur le plan physique. Donc, je vous invite à être bien attentif justement à cette période-là, cette date. Je vous invite à la noter. Et alors, il nous a lancé dans un petit jeu en fait. Cobra, je ne sais pas si vous avez essayé de cliquer sur le lien qu'il nous a proposé. Il nous a mis un indice avec un lien sur une page web avec une phrase un peu sibylline. Attendez, je vous la mets dans, je vais la mettre dans DeepL pour vous la traduire. Donc l'indice par rapport à ce qui pourrait se passer donc le 18 septembre. Donc qu'est-ce que John McAfee a autorisé à Ingersoll Lockwood à faire donc d'ici le 18 septembre 2021. Désolé, ce n'est pas les 31 téraoctets de données, mais quelque chose d'autre et d'important. Alors, on est dans un code un petit peu comparable au code de la résistance. Enfin, moi, je me suis interrogé là-dessus parce que je trouvais ça rigolo. J'aime bien ça. Est-ce que vous savez qui est John McAfee? Allez, parmi les co-animateurs, est-ce que l'un d'entre vous sait qui est John McAfee?
Oui, bah c'est le concepteur de l'antivirus, non? C'est pas ça?
Ouais, absolument, absolument. Alors, donc effectivement, il est plutôt connu par le nom de son antivirus, un antivirus qu'on trouve sur beaucoup de PC Windows, par définition, hein, de série. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais beaucoup qui ont McAfee de série. Et est-ce que vous connaissez Ingersoll Lockwood? J'avoue que moi, je ne le connaissais pas du tout. Hein. Il faut aller chercher dans Wikipédia. Mais Ingersoll Lockwood, donc c'est un écrivain, en fait. C'est un écrivain qui a écrit des bouquins, notamment pour les enfants, je crois. Et il en a écrit un à propos d'un personnage qui s'appelle Trump. Alors, il était complètement oublié, en fait, ce personnage, enfin, cet auteur et les romans qu'il a écrits. Mais c'est revenu au goût du jour, justement, quand Trump a été mis au pouvoir, parce qu'évidemment, son personnage de Trump faisait penser à Trump. Et en fait, dans un de... Alors moi, je vous donne une clé, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je n'ai pas la prétention de décrypter l'indice à coup sûr, mais en tout cas, je me suis intéressé à cet indice et je me suis dit que s'il nous donne un indice, c'est qu'il nous donne le droit de décrypter l'information. Donc ce personnage de Trump, en fait, alors, attendez, il faut que je retrouve... J'aurais dû préparer ça à l'avance, mais il se retrouve en fait en lien avec un peuple de l'intra-terre dans les aventures de ce personnage donc créé par Ingersoll Lockwood. Donc, alors moi, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser tout simplement à tout ce qu'on est en train de dire justement par rapport à la résistance, tout ce qui peut se passer justement dans ces bases souterraines, et peut-être qu'il pourrait y avoir une divulgation majeure qui sorte après le 18 septembre en lien, alors je dis pas forcément en lien avec Trump parce que vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, mais en lien en tout cas avec ce qui peut se passer justement dans cette guerre souterraine qui a lieu actuellement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est farfelu, mon interprétation? Est-ce que vous avez votre propre interprétation? Est-ce que vous vous êtes penché sur cet indice que nous a proposé Cobra? Alors, moi, j'ai pas été jusqu'au bout de mon explication. C'est-à-dire que quel est le lien entre McAfee et une potentielle divulgation? Quel est le lien? Alors, moi, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de l'ascension de Cobra, donc il y a quelques années de cela, et en fait il parlait d'un élément intéressant, j'avais du mal à le croire à l'époque d'ailleurs, je trouvais ça un peu farfelu, où il disait que des informations justement pourraient être diffusées sur une grande partie des PC du monde entier, notamment des journalistes, mais pas que, des informations de divulgation avec des images ou on va dire des preuves irréfutables. Et ben, je lui dis, comment c'est possible ça? Peut-être que certains logiciels comme, je sais pas, un logiciel antivirus pourraient avoir des clés ou des backdoors qui permettrait justement de diffuser de façon massive des informations dans les ordinateurs personnels d'une multitude de personnes à la surface de la planète pour déclencher un processus de divulgation. Voilà. Bon, je sais que c'est extravagant un petit peu, mon explication, mais en tout cas, voilà, moi, vas-y, Jonathan.
Non, c'est pas du tout idiot. Je ne sais pas s'ils ont besoin d'utiliser un logiciel tiers, s'ils peuvent ne pas le faire directement, parce que Windows... ou en tout cas la grande majorité des logiciels, des ordinateurs, que ce soit Linux ou Windows, principalement, c'est des passoires, donc je ne sais pas s'ils ont besoin d'un logiciel tiers, mais en l'occurrence, pourquoi pas. Hein. Dans la forme, je ne suis pas sûr, mais dans le fond, ce n'est pas du tout idiot.
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu original, mais bon voilà, surveillez votre antivirus si vous avez du McAfee sur votre PC. Il pourrait peut-être vous donner quelques informations après le 18 septembre. Allez donc savoir. Alors, on va continuer. Donc, il nous dit qu'il y a deux pays clés dans ce processus. Donc, c'est la France et les États-Unis. C'est le point dont nous parlions tout à l'heure. Donc, la France, qu'on appelle aussi l'Hexagone, qui finalement dessine une espèce de fleur de vie géante à la surface de la planète. Donc, qui pourrait être justement une clé intéressante pour la percée de la lumière par compression. Alors, il nous donne encore une date. Donc, c'est super intéressant cette mise à jour parce qu'on a des dates. Il est intéressant de noter que Martin Armstrong, celui dont on parlait tout à l'heure, là, cet économiste qui fait des prédictions, s'attend à un tournant les 23 et 24 septembre en France. Et là, il nous donne un lien à propos du fait que est-ce qu'une révolution est en marche? Et il précise que ce point d'inflexion n'est pas encore le moment de l'événement avec un grand E. Alors, est-ce que vous voulez commenter ce point? Est-ce que l'un d'entre vous aurait quelque chose à dire par rapport à ça? Donc, la résonance, je me souviens, Marion avait dit quelque chose d'extrêmement pertinent lors de notre dernière émission où elle avait parlé justement de ce parallèle avec la Révolution française et boum, peu de temps après, il y a justement Cobra qui en parlait. Je ne sais pas si tu es là, Marion, si tu voulais éventuellement...
De la déesse Eris et d'indiquer en fait à la symbolique de la déesse Eris, c'est la déesse de l'éveil et du chaos qui vient mettre fin aux vieilles structures. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on a ce carré Eris-Pluton, donc le 18, hein, c'est bien ça, tu me confirmes Hervé? C'est bien ça.
En fait, le carré Eris-Pluton, il est d'août à octobre. Mais le milieu, ça correspond effectivement au 18 septembre, oui.
D'accord, donc dans la symbolique, c'est hyper intéressant dans l'énergie que ça va véhiculer. Il va peut-être y avoir des divulgations qui vont déclencher un éveil encore plus massif. Alors, je ne sais pas, j'imagine plein de choses sur le vaccin, on va savoir d'autres choses, mais effectivement, on sent qu'il va y avoir une énergie de divulgation, quelque chose de cet ordre-là. Et je fais le lien avec les codes de Cobra, c'est des codes qui s'adressent au mouvement de la résistance, mais bon, on en connaît certains, on les comprend, on les devine par rapport à des opérations qu'il a déclassifiées. Et donc, il y avait des codes qui supposaient plutôt une opération informatique. C'était je ne sais plus quoi, Shell, donc bouclier, je ne sais plus quoi. Donc, a priori, c'est une technologie informatique. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait eu récemment des... Et puis, il y a eu plein de piratages récemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu plein de trucs qui sont passés au niveau international, des cyberattaques et tout. Donc, c'est fort possible qu'en mettant tout ça en lien... On peut s'imaginer qu'il y a une divulgation à travers les réseaux, je ne sais pas trop comment, mais voilà, il faut peut-être s'attendre à ça pour à partir de septembre, quoi.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans certains codes de la résistance de Cobra, justement, il utilise effectivement des termes informatiques, des termes de la sécurité informatique. Donc un shell, typiquement, c'est une console où on peut passer des commandes directes sur un système d'exploitation. Mais bon, à plusieurs reprises, il a sorti des termes qui correspondent à la sécurité informatique. Donc, il va se passer des choses en lien avec ça. Attendez-vous à quelque chose. Alors je ne sais pas, je regarde vite fait, non, main levée. On va continuer et puis on risque de décevoir peut-être certains ardents partisans de Q. On n'est pas non plus tenu de croire tout ce que dit Cobra. En tout cas, il dit la chose suivante. Aux États-Unis, certaines choses se passent en coulisses. Enfin, je pense qu'il s'en passe un peu partout, mais bon. Comme vous pouvez le lire dans ce rapport partiellement fiable, donc il nous donne un lien qu'on vous invite à lire, par rapport justement au retour possible de Trump. Alors, je sais que c'est un sujet qui enflamme toujours la communauté des QAnon. Et donc, il précise, la résistance a communiqué que ce n'est pas Trump qui reviendra à la Maison-Blanche au moment de l'événement. Désolé. Un gouvernement provisoire sera formé jusqu'à ce que de nouvelles élections puissent être organisées dès que possible après l'événement. Et oui, je sais que la communauté QAnon rêve de cela, avant même la fin du mandat de Biden, bien évidemment. Et j'aime bien cette petite mise à jour qui remet un petit peu les pendules à l'heure par rapport à toutes ces fantaisies et ces châteaux en Espagne que peuvent construire les personnes de la communauté des QAnon. Je ne sais pas, Jonathan, pareil, tu aurais sans doute des choses intéressantes à dire sur le sujet.
Pour moi, c'est de la rhétorique, c'est de la désinformation vis-à-vis de Trump. Donc, il a, dans les plans, je pense, positifs, il n'a jamais été question de réintégrer Trump. Et que tout ça me semble assez logique. On va aller vers un gouvernement provisoire où les fraudes, les précédentes fraudes, entre autres, mais celles antérieures aussi, puisque d'ailleurs, RT anglais avait fait une très bonne vidéo pour recenser les fraudes depuis les années 70. Ils n'avaient pas été exhaustifs, mais depuis les années 70, et ils montraient bien que c'était les deux parties qui fraudaient. Donc voilà, donc que c'était institutionnel en vérité. Et donc, ils vont exposer ça pour légitimer la mise en place de nouvelles élections avec un gouvernement provisoire. Voilà. Mais Trump n'en viendra jamais au pouvoir, vu qu'il fait partie de la cabale.
Ah bon ?
Ouais, je sais, ça étonne beaucoup. C'est une nouvelle info. On n'a jamais entendu ça avant, mais c'est vrai.
Bon, disons qu'on est dans une guerre de l'information et qu'on a beaucoup d'informations dissonantes sur le sujet. En tout cas, pour ceux qui suivent le Contact Ecobra, on sait qu'il y a des liens entre Trump, les noblesses noires, que Trump a pris le Lolita Express, etc., etc., et que Trump n'est pas un enfant de cœur. Et voilà. Bon, désolé pour la déception. Après, on peut toujours continuer à l'espérer, hein, pourquoi pas. Mais peu importe, en tout cas, nous, ce sujet ne nous préoccupe pas, puisqu'effectivement, on pense que l'événement sera un générateur de mise en place de gouvernements provisoires dans quasiment tous les pays du monde, en réalité, avant que, je dirais, de nouvelles choses beaucoup plus positives se mettent en place après ces arrestations massives. Alors, il fait allusion aussi au faux du. Alors là, j'ai pas creusé. Là, je sais pas du tout. Il dit l'information sur le faux duplicata de la Maison Blanche est correcte et a été confirmée par de nombreuses sources. Je sais pas, Jonathan, tu sais de quoi il est question ? J'avoue que j'ai pas creusé.
Oui, en fait, il y a beaucoup de rapports d'infos et de choses qui faisaient référence à une réplique de la Maison Blanche dans laquelle la cabale tournait. Des séquences de plans, d'allocutions de Biden, du gouvernement, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui mettaient en exergue les différences entre les vrais plans de l'intérieur du bureau ovale et de ces fausses séquences-là. Ils disaient, ça colle pas, le sol, il y a des éléments divergents, etc. Les piliers, la déco, etc. Bon, il y a des éléments, ça pouvait être balayé d'un revers de la main, mais effectivement, il y avait des différences assez notables et c'était troublant. Et donc, ça alimentait la rhétorique qui expliquait, selon eux, la grille de lecture QAnonesque, expliquant que ces personnes-là étaient mises en avant pour jouer une scène et qu'en fait, tout était maîtrisé en coulisses, que l'armée positive maîtrisait absolument tout et que tout ça servait juste du théâtre. Du théâtre pour eux qui servait à juste maintenir une illusion pour réveiller la population, parce qu'ils auraient besoin d'éveiller la population. Enfin, bon, pour moi, c'est une rhétorique fallacieuse. Mais en fait, la vérité, je pense, beaucoup plus simple, mais c'est mon avis, il faut voir ce que les gens en pensent, c'est qu'effectivement, la Maison Blanche, il y a trop de militaires positifs autour, et que si la cabale est trop concentrée là-bas, à un moment, ils peuvent se prendre un scud et une arrestation un peu éclair. Donc, c'est se jeter un peu dans la gueule du loup. Donc effectivement, ils ont construit une fausse Maison Blanche, y ressemblant le plus possible, et ils tournent certaines séquences là-bas, c'est beaucoup plus sécuritaire pour eux, et puis ça permet de continuer la rhétorique sans mettre en danger des pions de niveau inférieur ou de niveau intermédiaire.
Intéressant, intéressant. Et moi je trouve que l'Emmanuel Macron là, qui est apparu sur TikTok pour jouer le rôle d'influenceur pour Pfizer, j'avais l'impression qu'il nous avait ressorti le sosie de la dernière fois. Mais bon, ce n'est qu'une impression.
C'est pas tout à fait impossible, mais j'y crois pas trop pour le coup. Moi, je ressentais vraiment son énergie et tout. Et surtout, il ne faut pas oublier que Macron, il est quand même ultra maquillé et qu'une personne maquillée, on peut vraiment changer son visage, en plus des angles de caméra, etc. Et qu'il y a... Bon, je pense que c'est une explication plus logique.
C'est juste.
Même s'il peut avoir des sosies de temps en temps, on l'a déjà vu plusieurs fois avec Hillary Clinton en 2017, où là c'était totalement grillé qu'il y avait des sosies qui étaient utilisées à certains moments parce que l'autre lui manquait sa dose d'adrénochrome et donc elle était un peu en PLS. Mais au-delà de ces cas de figure qui sont véridiques, la majorité du temps c'est juste une question d'angle de caméra et de maquillage. ou de non-maquillage.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, alors je continue. Donc, de plus en plus de personnes sont conscientes que seules deux sociétés, BlackRock et Vanguard, contrôlent la plupart des actifs financiers mondiaux. Alors bon, moi, je connaissais BlackRock, Vanguard, je m'étais pas trop intéressé. Et alors, figurez-vous que justement, avec le groupe d'action directe de Sandrine dont nous parlions tout à l'heure, donc Méditons ensemble pour la libération planétaire, on a BlackRock a eu droit à sa petite colonne bouddhique ciblée, qui met du coup BlackRock moi m'est apparu comme un château de cartes qui s'effondrera vraisemblablement avec la réinitialisation financière. Donc peut-être Sandrine, faudrait-il organiser une colonne bouddhique sur Vanguard si vous ne l'avez pas déjà fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es avec nous, Sandrine, mais voilà. Oui. En tout cas, comment
faire, oui. Ça, c'est une bonne idée aussi. On a fait BlackRock, on va pouvoir faire aussi Vanguard.
Ouais, voilà. Pourquoi pas, après tout. Hein, pourquoi voilà. Faut pas être jaloux. Hein, il faut qu'ils aient le même traitement, tous les deux. Donc, BlackRock est la force financière derrière les plans du grand reset du Forum économique mondial. Et donc, cette société achète massivement des biens immobiliers aux gens pour que vous ne possédiez rien et soyez heureux. Voilà. Donc, dans l'idée, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus de propriétaires. Hein. Vous connaissez cette espèce de plan. C'est que, en fait, nous ne soyons plus que des locataires à la surface de cette planète et qu'il n'y ait plus de propriétaires. Heureusement, la prise de conscience de BlackRock et de ses plans infâmes est devenue générale et a déjà suscité des protestations. Donc, alors moi, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus. En tout cas, moi, ce que je dirais, c'est que voilà, l'idéal de la cabale, c'est ça, c'est que vous êtes une personne implantée avec une puce sous-cutanée qui va miner des crypto-monnaies. Qui permettra de miner justement votre revenu universel. Et du coup, si vous refusez la puce et toutes les injections qui vont avec, vous n'aurez pas votre revenu universel et puis vous n'aurez pas droit à votre logement non plus. Donc, vous allez être complètement dépendant d'un système avec une note sociale, etc., etc. Donc, c'est ça, je pense, le paradis transhumaniste qu'ils imaginent pour nous, mais qui ne se réalisera bien évidemment jamais. Une petite réaction sur le sujet, une question, une réaction? Non. Bon, alors on continue. La véritable raison pour laquelle les forces obscures sont si pressées d'imposer leur grande réinitialisation est qu'elles ont peur du changement polaire. Cobra nous précise, et c'est d'ailleurs la fin de cette mise à jour, je publierai des informations sur le changement polaire à venir et sur le plan d'ascension mis à jour dès que je recevrai l'autorisation de le faire. Autorisation qui vient d'en haut, qui vient des galactiques positifs ou de la résistance d'ailleurs. Donc, alors ce changement polaire, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je vous laisse parler, hein. Cindy, Jonathan, Marion, je ne sais pas si vous avez...
Non, moi, je sors un peu le joker parce que je ne sais pas à quoi il fait référence. Est-ce que c'est le changement polaire magnétique ou physique? Ou est-ce qu'il parle des deux? Parce que le magnétique, ça a déjà commencé. Donc, je pense que c'est plutôt le physique. Mais est-ce que la cabale a peur que le déplacement physique entraîne la découverte d'anciennes civilisations, de choses comme ça, tu vois, enfouies? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Donc là, moi aussi, j'ai un gros point d'interrogation sur ce point et j'ai hâte de voir les détails qu'il pourrait balancer.
Moi, ça me rappelle un passage des notes de la conférence sur l'ascension de Taipei du 30 novembre au 1er décembre 2019. Donc, où on nous disait, bon, c'est des notes qui ont été validées par Cobra, concernant la super vague galactique et le basculement polaire. Donc, la galaxie pulse comme un battement de cœur, chaque battement prend 25 000 ans. Au moment du basculement polaire, lorsque de grands tsunamis se produiront, donc le physique sûrement, il y aura une évacuation de la population d'eau surface. Et ensuite, il y aura l'ascension. Donc, l'ancien équateur représente la preuve du basculement polaire passé. Il y a des points de puissance sur l'ancien équateur, les pyramides de Nazca, Baalbek au Liban, Gizeh, etc. L'ancien équateur existait il y a 75 000 ans, entre 75 000 et 13 000 ans, marqué de tous ces points de puissance et tourbillons. Puis l'axe de rotation a changé. La ligne de lait de la déesse passe par Baalbek en Syrie, Paris et Stonehenge. Il existe des preuves géologiques d'un cataclysme qui s'est produit il y a 12 800 ans lorsque de nombreuses espèces se sont éteintes. Cette fois-ci, il y aura un véritable retour de la lumière et une réunion galactique, une réintégration de la société humaine dans la société galactique. Voilà, mais apparemment, tout est prévu pour ce basculement polaire, pour qu'il y ait une sécurité, une évacuation, donc je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter.
Oui, justement, moi, ça me pose vraiment question, parce que pourquoi les forces obscures sont pressées d'imposer là, leur grande réinitialisation, parce qu'elles ont peur du changement polaire. Si c'est quelque chose de cataclysmique, je pense que de toute façon, les forces sombres, elles pourront pas faire face à ça. Donc, j'ai pas le sentiment ici qu'on parle de quelque chose de cataclysmique. Mais voilà, moi, je sais pareil. Hein,
C'est lié à la ligne, en fait, c'est lié à la ligne de la déesse. Donc, par exemple, Versailles se trouve sur l'ancienne ligne qui était liée aussi à l'équateur penché. D'ailleurs, il y avait le super documentaire, pour ceux qui n'ont pas encore vu Les bâtisseurs de l'ancien monde, que je recommande, qui est quand même assez intéressant sur ça, sur l'équateur penché. Et voilà. Et tous les monuments qui ont été construits sur cet équateur penché. Et en fait, je pense, de mon intuition, c'est purement intuitif, je pense que quand on va se remettre dans cet axe-là, enfin, en tout cas, quand ça va être réactivé d'une manière ou d'une autre, les monuments vont se réactiver, donc cette ligne de la déesse va être réactivée et ça va avoir un effet positif puisque c'est lié aussi à l'ère du Verseau. Puisqu'en fait, on finit un cycle, on change d'air, donc on passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, dans la constellation. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là avec cette ancienne ligne.
D'accord, bah, super. Merci pour ton point de vue. Alors, en fait, on est arrivé au terme de cette mise à jour de situation planétaire, donc sur le thème de David et Goliath. Donc, vous voyez qu'on n'a pas du tout parlé ni de David ni de Goliath, ou qu'on en a parlé tout le temps en réalité. Est-ce que, avant de terminer justement l'enregistrement, là, qui fait déjà plus de 2 heures pour cette soirée, est-ce que des personnes souhaitaient poser une question, donc en lien avec cette mise à jour de situation planétaire, ou faire une intervention? Et après, donc, pour ceux qui le souhaitent, nous basculerons en mode after, pour ceux qui souhaitent continuer à discuter, mais hors enregistrement. Donc, je vous invite à lever la main ou à prendre la parole rapidement.
Moi, je veux bien.
Oui.
J'ai une petite idée sur le fait que, après le basculement, il puisse plus. Enfin, les forces sombres puissent être.
On t'entend mal, excuse-moi. Parle bien près du micro, Socha, s'il te plaît, on t'entend assez mal.
Là ça va mieux.
Oui.
Comme ça va mieux. Je disais, peut-être que ce serait par rapport à ce basculement, par rapport à l'événement, ce moment permettrait à ceux qui sont encore dans l'oubli, le fameux oubli qu'on reçoit tous quand on est, et donc ne peuvent pas vraiment avoir conscience des choses et ne peuvent pas vraiment utiliser leur libre arbitre. Et peut-être que les forces sombres savent très bien qu'ils ne peuvent pas outrepasser le libre arbitre et qu'à ce moment-là, les gens seraient en conscience totale et utiliseraient leur libre arbitre, évidemment, contre leur manœuvre. C'est une idée. Voilà.
Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait faire une intervention ou poser une dernière question? Alors moi, je rappelle que s'il y a des personnes intéressées éventuellement, je cherche toujours un candidat pour pouvoir reprendre les sessions de dissolution des implants en langue française à la rentrée. Si l'un d'entre vous est intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en parler, que je puisse vous transmettre toutes les informations nécessaires pour cela. Puisque voilà, je cherche, comme je fais pas mal de choses, je cherche à être aidé justement sur cet aspect-là, des sessions de dissolution des implants. Donc voilà, j'en profite. Alors j'ai Christian qui souhaite intervenir. Tu peux activer ton micro, vas-y.
Bonsoir, est-ce que vous m'entendez tous bien?
On t'entend très bien.
Salut Hervé, salut Gwen que je connais. Je tenais à intervenir parce que j'ai remarqué qu'il y a un fil conducteur qui peut déclencher un petit peu le réveil, on voit déjà que par les manifestations, il y a, ou les rassemblements, c'est plutôt le mot juste, il y a de plus en plus de monde. Mais moi, j'ai créé un groupe d'information tout début septembre 2020 qui s'appelle Le droit à l'information parce que j'ai ressenti justement cet élan d'informer les gens. Et je vois encore aujourd'hui, lorsque je vais faire mes courses, lorsque je vais à l'extérieur, que les gens ne sont pas informés. Les gens savent qu'il se passe quelque chose de pas normal, mais ils ne savent pas quoi. Donc moi, c'est vrai que chaque fois que je vais faire des courses, j'essaye d'informer au moins une personne à chaque fois que je sors. Et le problème, c'est la censure qui nous tombe dessus, par exemple sur Facebook, donc là où j'ai créé mon groupe. Et j'ai énormément de mal à faire grossir un peu le groupe. J'ai remarqué que quelques abonnés me disent que quand ils partagent les informations que je leur apporte, ils sont tout de suite censurés par la famille, par les amis. C'est très, très, très compliqué. Donc, je ne sais pas si autour de vous, vous avez le même sentiment que l'information est capitale. On voit bien que la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre d'information. Et que pour rallier ou rassembler un maximum de gens, je pense qu'il est important de les informer. Et plus on les informera, plus il y aura de monde. Voilà, j'ai donné mon petit point de vue. Je ne sais pas si ça va apporter une pierre à l'édifice. Mais je vis pratiquement 24 heures sur 24 à informer les gens. Hervé, je t'avais rencontré justement au tout début où j'avais créé ce groupe. Je ne sais pas si tu t'en rappelles.
Oui, oui, bien sûr. Alors, justement, par rapport aux canaux, il faut vraiment diversifier les canaux. Jonathan avait fait une petite vidéo justement sur le sujet, sur le bon usage des réseaux sociaux. Je sais pas, Jonathan, tu pourrais peut-être intervenir, mais en fait, clairement, aujourd'hui, si tu te cantonnes à Facebook, tu pourras pas te développer. Tu vas pas pouvoir te développer.
Le problème, c'est que moi, je suis tout seul et je suis aussi sur VK. Je regarde un petit peu aussi sur Telegram, mais j'avoue que je suis très très vite débordé parce que on va pas partager des informations qui sont un peu alambiquées ou donc on passe beaucoup de temps. Je regarde beaucoup de vidéos. Je suis tout seul. Je suis au chômage, donc j'ai cette chance entre guillemets d'avoir du temps, mais la santé commence à chuter, la fatigue aussi. Donc quand on est tout seul, c'est pas évident. J'ai 587 abonnés aujourd'hui. Je commence à avoir de plus en plus de choses à vérifier, à partager. Je me sens un petit peu seul, quoi, si tu veux, Hervé. Donc voilà, j'ai peut-être besoin d'un soutien, d'aide, de participer à des groupes en dehors de Facebook, de VK. Je me sens très vite débordé, quoi. Donc voilà.
D'accord. Alors, je suis désolé. Ah oui, voilà, c'est ça. Paillette du ciel avait son micro ouvert. Effectivement, c'est une guerre de l'information, c'est une guerre de conscience, en réalité. Hein. Une guerre de l'information est une guerre de conscience. Nous vivons une guerre de conscience. Je vais encore mettre en muet Paillette du ciel parce que pour éviter le bruit parasite. Je pense qu'il faudrait effectivement trouver quelqu'un pour t'aider ou t'associer à quelqu'un, je ne sais pas. Donc, du coup, voilà, le fait d'en parler ici peut peut-être donner envie à quelqu'un de participer.
Oui, hier, j'ai fait connaissance justement avec la personne qui dirige le groupe, enfin la page Les Éclaireurs Médias, je ne sais pas si tu connais.
Non.
Qui était l'ancien compte de Lou Divergent.
Ok.
Voilà, donc voilà, j'ai commencé justement à avoir contact, donc on va partager nos informations. Donc oui, j'ai besoin de... Je sens de toute façon cet élan, je vois très bien quand je croise quelqu'un dans la rue avec qui je commence à parler, les gens ne savent pas. Donc c'est d'informer. Et une fois que les gens sont informés, ils en font ce qu'ils veulent de l'information que je divulgue ou que je partage. C'est leur problème. Mais il faut qu'ils sachent.
Je pense que c'est alors, important. Moi, c'est déjà un commentaire que j'ai fait. Hein. Vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord, mais je pense que on est dans une phase vraiment critique. On est dans une phase où le pouvoir en place a réussi véritablement à polariser la société, a réussi un contrôle mental assez puissant justement sur une bonne partie de la société. Et aujourd'hui, il devient vraiment difficile d'argumenter. Et de faire basculer de l'autre côté de la barrière justement les personnes par la simple argumentation. C'est pour ça que je crois au pouvoir de l'humour, c'est pour ça que je crois au pouvoir de l'art, de la chanson, etc., pour pouvoir encore toucher les cœurs et faire que l'on puisse gagner plus de conscience à notre cause. Ceci étant, il faut continuer le travail d'information, bien évidemment, il faut le continuer. Ne lâche rien, Christian, ne lâche rien, c'est plus important que jamais, puisque tu connais la loi... tu connais la loi du centième singe et tu sais qu'il peut suffire d'une personne. Non, tu ne connais pas. Bon, c'est la loi du centième singe. On en parle beaucoup dans nos milieux, mais en réalité,
si, ça y est, ça me revient. Oui, je connais. Oui.
Voilà.
Il nettoyait les fruits et puis faire... sur une autre île. Oui, ça y est, ça me revient.
Il suffit de faire basculer peut-être une ou deux consciences de plus pour que justement pour que la conscience planétaire elle-même bascule en fait. Il y a notion de conscience individuelle et conscience de groupe.
Oui,
et lorsqu'on arrive.
Ouais. Je sais, excuse-moi, je sais que j'ai un certain impact sur quelques personnes. Donc c'est le grain de sable qui va faire que la plage va s'agrandir. Mais sache que je suis un Capricorne ascendant Bélier, donc je suis très endurant.
Eh ben voilà,
jamais.
Donc voilà, je vais terminer là-dessus et je vais arrêter l'enregistrement.
Merci,
et on pourra continuer en mode after. Merci à toi, Christian. Donc effectivement, ne lâchez rien. Votre contribution à la lumière est attendue plus que jamais, sachez-le. Et d'autant plus dans cette phase justement d'accélération. Donc voilà, ne lâchez rien et plus... justement nous serons actifs dans cette réinformation, dans ces actions de méditation, désobéissance civile, puisque c'est là où nous allons en fait face à ce passe sanitaire, et plus vite nous arriverons à la bascule. Voilà, donc je vous remercie à tous, je termine l'enregistrement, je suis désolé, on a été un petit peu long et on continue en mode after pour ceux qui le souhaitent. Merci et à bientôt.